Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et dorénavant, Pulps est aussi ouvert le lundi. Bonjour à tous et bienvenue sur le 79e Weekly News. Nous sommes le lundi 10 février et ce soir, pour m'accompagner et vous parler de toute l'actu comics de la semaine, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Toujours en duo.
Oui, bah ouais.
Entre poilus. Car nous sommes les
deux
plus
poilus. On va pas le
dire
à chaque fois, mais...
Non, ouais, mais nous sommes les deux plus poilus du site, donc voilà.
Et oui, c'est les plus doués, les plus beaux aussi, hein, de toute façon.
Pour ma part, je n'irai pas jusque-là, mais... Allez, ce soir on va parler de Screen News bien évidemment, avec encore une fois plein d'annonces concernant le cinéma et la TV, avec du gros lourd concernant la TV surtout. Bien sûr, nous parlerons aussi des chiffres de vente dans les brèves, les chiffres de vente du mois de janvier qui sont tombés, ainsi que des annonces surprenantes comme la fin de la collaboration entre Abnett et Lanning, des nouveaux éditeurs avec un jeu des chaises musicales chez Marvel, des rumeurs qui sont enfin officialisées chez DC, et bien sûr pas mal de petites news indé. En fin d'émission, le Comics-Com, la partie où l'on répond à vos mails et à vos tweets. Je suis Steve et vous écoutez le Weekly News. Et comme chaque semaine, nous allons démarrer avec le What's Up. Alors Bruno, What's Up ?
Du coup, ce week-end, je suis allé voir mes parents sur Biarritz, donc j'ai pris le train et j'en ai profité pour rattraper un petit peu mon retard sur certains comics. Tout particulièrement, j'ai lu le fameux Zero Year. J'avais lu que les deux premiers numéros de ce grand arc de Scott Snyder sur Batman qui réinvente le personnage. Et là, du coup, maintenant, je suis à jour. Je suis prêt pour la semaine prochaine, sauf que la semaine prochaine, ça va pas être du tout la suite de Zero Year. J'étais dégoûté.
Ah bah oui, c'est le spoiler issue.
Donc c'est un petit peu mon bash aussi de la semaine. Ça sert à rien de nous mettre un numéro comme ça au milieu d'un arc qui a rien à voir. Enfin bon. Et plutôt satisfait par le premier arc avec le gang du Redwood. J'ai trouvé ça vraiment bien fichu. Le deuxième, je trouve un petit peu plus poussif avec Dr. Death et cette fameuse panne de courant. Bon, j'attends de voir la conclusion parce qu'il a placé pas mal d'indices. J'espère qu'il y aura quand même des choses à la fin qui vont permettre de tout rassembler et que ça prendra sens. Mais sinon, graphiquement, moi j'aime beaucoup ce que fait Capullo, effectivement. Il y a pas mal de débats dessus par rapport aux couleurs. Et comme on sait que Gotham c'est devenu de plus en plus sombre à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'au début c'était très criard les couleurs et que maintenant ça devient très sombre dans le titre Batman qui se passe dans le présent. Voilà, plutôt sympa. Et j'ai aussi lu le premier TP de Clone. J'avais lu que le premier single, j'avais trouvé ça pas mal. Et vraiment, le premier TP, je l'ai dévoré. C'est un rythme vraiment de fou. C'est très, très, très rythmé.
Très, très bonne série. Hein.
Ouais, vraiment très bonne série, avec un Juan José Rip vraiment très en forme. Voilà, de bonnes idées, un petit peu de politique.
On sent aussi que David Schulner est quand même un mec à bosser à la télévision dans la façon dont il découpe son récit.
Tout à fait, ouais. Ça se sent vraiment... d'ailleurs, c'est pas étonnant que la série ait été optionnée pour une série télé. Parce que vraiment,
parce qu'il a
potentiel.
Des contacts.
Oui, déjà il a des contacts, mais bon, enfin le mec, je crois, il bossait sur Desperate Housewives. Là, c'est quand même autre chose. Hein, donc.
Non, c'est la même chose.
C'est un petit peu plus trashouille, mais non, vraiment, vraiment super. Et je suis content que Delcourt l'ait dit en français. Voilà, c'est un très bon titre et j'espère qu'il se vendra bien.
Ah, c'est une série que je continue de suivre avec toujours un peu de retard, un ou deux mois de décalage en général parce que grosse pile de lecture, mais c'est une série que j'apprécie beaucoup.
Oui, puis le fait que Rose Rip soit vraiment présent sur chaque numéro, mois après mois, c'est une bonne chose.
Eh bien, pour ma part, le WhatsApp, je pense que tu avais terminé.
Oui, oui, j'ai fini, ouais.
Pour ma part, le WhatsApp, un week-end assez court, encore une fois, parce que mon véritable week-end est en fait le mardi, mercredi. Le reste du temps, je bosse. J'ai continué de bosser pour ce spécial que vous entendrez dans la semaine, qui débarquera dans la semaine, que nous enregistrerons demain. J'ai hâte que ce soit enregistré, que j'arrête de voir ce genre de choses. J'ai envie de me crever les yeux. J'en peux plus.
Il faut dire aussi, l'idée de faire un spécial Pokémon, Steve, je sais pas ce qui t'a pris. Hein.
Arrête, est-ce que les gens vont nous le réclamer bientôt? Non, nous ne sommes pas de la génération Pokémon. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas de la
Ah non,
génération
non.
Pokémon.
Ah,
Pokémon a
regarde, je veux bien
débarqué.
faire un spécial sur Saint Seiya, mais pas sur Pokémon.
Non, Pokémon a débarqué. Moi, j'avais déjà plus de 15 ans. C'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Même si j'avais adoré le plan commercial de l'époque, je trouvais très très bon. Pour moi, c'était vraiment trop tard pour m'y mettre. Hein. C'était déjà un peu trop enfantin. Non, j'ai aussi joué un petit peu à Marvel Heroes. J'ai farmé comme un gros dégueu avec
Donc c'est
la
ce
Scarlet
fameux jeu
Witch.
de ce MOBA là ou c'est non c'est pas le
Non,
MOBA c'est le
le free to play.
free to play ouais d'accord ouais, que j'avais testé. Tu joues avec Okai c'est ça?
J'avais joué avec Okai pas mal, mais là, cette fois-ci, j'ai pas mal farmé avec la Scarlet Witch. C'est easy peasy, quoi. Elle a beaucoup d'AOE et, enfin, franchement, j'appuie sur un bouton en général, tous
De
les ennemis
quoi?
d'attaque à air d'effet, des AOE.
Ah d'accord.
Et t'appuies sur un bouton et bah, il reste plus grand monde de vivant, quoi.
Ok.
Non, franchement, en plus, j'ai chopé du stuff assez. Plutôt pas mal pour mon level et je suis assez content. Enfin, là, franchement, pas vraiment de résistance, quoi.
Moi, j'aime pas trop ce genre de jeu, mais est-ce qu'il y a quand même du scénario, de choses comme ça,
Ah
ou
oui,
c'est
y a une histoire
il y a une
qui se
campagne?
déroule de chapitre à
D'accord.
chapitre. Et bah, tu montes ton perso au gré des chapitres. Après, tu peux farmer comme un gros dégueu si tu veux, sans faire l'histoire, mais tu peux faire l'histoire, c'est plutôt intéressant, surtout que quand tu finis des chapitres de l'histoire, t'as toujours des petits bonus sur ton personnage qui sont sympathiques, un peu plus de vie, des bonus permanents.
D'accord, et ils ne font pas que rajouter des persos, ils rajoutent aussi des chapitres ou pour l'instant c'est plutôt juste rajouter des nouveaux personnages.
Un peu les deux en fait.
Un peu
Bah
des deux, d'accord.
la dernière mise à jour, la 2.2, rajoute l'équipement Asgardien avec de l'enchantement que je n'ai
Ouais.
pas encore pu tester puisqu'il faut être au level 20 et que mon personnage le plus haut est level 12 puisque bah, jusqu'à présent j'ai trois personnages, Daredevil, Hawkeye et Scarlet Witch, que j'essaie d'équilibrer un petit peu, de les faire monter en même temps, même si je sais que le plus simple serait d'en monter un level 60 et après de faire les autres en bénéficiant de quelques bonus. Et voilà, je prends mon temps et je m'éclate et franchement c'est très fun, on voit pas le temps passer. C'est vraiment, il y a
Dernière
une
question, tu joues en
grosse...
solo ou...
Oui, tu peux jouer en solo, mais enfin, c'est ça qui est l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est vraiment déjà très fun parce que ça pète de partout. Tu croises des gens sur les maps, mais t'es pas forcément en groupe. Le fait que tu butes des monstres tous ensemble, bah, t'as plus de loot, enfin, ça va plus vite si tu veux, mais t'as pas besoin de grouper et chaque personne voit un loot. Enfin, du butin qui tombe des ennemis, quoi, des objets qui tombent quand on bute des ennemis, chacun voit le sien, en fait. Pas question que les gens se
D'accord.
piquent le loot les uns les autres. Donc, pour ça, c'est vraiment bien foutu. Et c'est vrai que je trouve que le jeu a vachement évolué depuis son lancement. J'avais testé au départ et j'avais pas trouvé ça top. Le jeu a vraiment bien évolué. C'est vraiment, vraiment plus fun, quoi.
Y a
Donc,
peut-être des auditeurs hein, qui jouent, hein.
je t'encourage,
Peut-être.
moi, Bruno, à
Ouais.
réessayer quand même. Parce que c'est vraiment, enfin, ça a changé quand même. Vraiment.
Ouais, ok, bah peut-être, peut-être.
Ouais, ça coûte rien en plus, à
Oui,
part
bah
un
c'est
peu de
ça qui est
temps,
bien,
à
hein.
part un peu de temps.
C'est free to play, ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps.
Oui, on en est un peu tous là. On en est un peu tous là. Non, le week-end dernier, j'ai fait du STO, enfin du Star Trek Online. Ce week-end, j'ai fait du Marvel Heroes. Week-end prochain, je retournerai peut-être un peu sur Lord of the Rings ou je sais pas encore. Si j'ai un peu de temps, bien évidemment.
EverQuest.
Oui, non, on va peut-être pas en faire 150 des MMO parce que c'est bien beau, mais au bout d'un moment. À chaque fois que t'en reprends un quand t'as pas joué depuis longtemps, tu fais merde, comment on joue déjà?
Ultima Online.
Non, franchement, je retournerais bien faire un petit tour sur WoW que j'ai quitté il y a maintenant 5 ans. Mais le fait de payer un abo me fait chier. J'ai pas envie de jouer sur un serveur privé, honnêtement. Donc voilà, ça m'emmerde un peu, quoi. J'ai pas envie de jouer sur un serveur privé, mais j'ai pas envie de payer, donc bah, je joue pas. Et puis c'est devenu tellement plus la même chose par rapport à l'époque où moi je jouais, c'est devenu tellement facile. Il y a eu tellement de changements qui me déplaisent que bon. Malgré tout, le lore du jeu était vraiment très intéressant. Bref. Autre temps, autre mœurs. Je milite pour un retour de WoW Vanilla quand même. Ce serait vraiment bien. Allez, on va passer à l'actu comics quand même. On va peut-être
Ouais,
démarrer
c'est parti.
au lieu de parler de tout et de rien. Bah, l'actu comics, c'est le Screen News qui démarre chaque semaine notre émission. Et alors là, grosse annonce,
Ouais.
Preacher débarquera à la télé. Enfin, débarquera. En tout cas, un pilote a été optionné pour AMC.
Ouais. Donc quand même une chaîne qui pour l'instant justement les adaptations de comics marchent bien puisque c'est là quand même la chaîne qui diffuse Walking Dead. Et voilà, donc Preacher, qui est quand même un titre majeur chez Vertigo, et qui va être adapté en plus avec la participation de l'auteur. Donc, ce qui est plutôt cool.
Des auteurs, puisque
Ouais,
Edgar
des auteurs,
Sennis et Steve Dillon participeront tous les
ouais.
deux.
Ouais. Donc, non, ça c'est une bonne chose. Après, au niveau des noms qui sont impliqués dans la production, il y a le nom de Seth Rogen qui revient beaucoup. Parce qu'il est quand même assez connu, c'est un acteur qu'on a pu voir dans pas mal de comédies. Et bah là,
Et
il est
Green
vraiment.
Hornet pour les
Ouais,
comics.
entre autres. Et il a l'air vraiment attaché à faire de cette série bah, quelque chose d'une réalité, quoi. Donc,
Et à
voilà.
la production, il est accompagné d'Evan Goldberg aussi, qui est un scénariste voilà, qui a travaillé sur pas mal de petits projets, comme notamment quelques épisodes des Simpsons, mais aussi sur Supergrave, par exemple, un Superbad en anglais, le
Ouais.
film. Il a bossé sur Green Hornet, enfin voilà, pas mal attaché avec les projets de Seth Rogen aussi.
Ouais, et il y a aussi Sam Catlin qui va servir de showrunner normalement pour cette série et qui a quand même bossé sur Breaking Bad qui était aussi quand même une série qui a très bien marché et qui était de plutôt bonne qualité donc.
Alors voir Preacher à la télé, ça reste quand même un gros rêve de geek et de fan. En plus, c'est sur AMC, qui est donc une chaîne du câble et où ils auront les moyens de leurs ambitions avec de la violence s'ils le veulent.
Ouais, oui, vaut mieux parce que Preacher en PG-13, bof quoi.
Oh putain, ouais, ça serait horrible, ça serait horrible. Donc voilà, on peut être relativement confiant. Maintenant, c'est sur AMC, c'est ceux aussi qui adaptent The Walking Dead, et moi, je déteste. Donc, voilà. À voir quelles seront les libertés prises avec le comique. C'est ce qui me fait peur. Rien à rajouter, Bruno.
Non, rien à rajouter, moi j'attends de voir. J'attends de voir le pilote.
Voilà, le pilote va se tourner, après on verra si la série se fera, hein, parce que comme d'habitude, ils tournent d'abord un pilote, la chaîne regarde si ça leur plaît ou pas, et si ça leur plaît, effectivement, ils optionnent la série, en général sur 12 épisodes, surtout si on est sur AMC, une chaîne du câble, sinon bah c'est retour à la case départ, quoi. Soit le pilote est retourné et modifié, soit l'idée est complètement abandonnée. Autre série de Vertigo qui va être adaptée, c'est une rumeur qui est tombée, enfin c'était une rumeur qui traînait un petit peu et c'est tombé cette semaine, c'est
Ouais.
DMZ.
Ouais, DMZ, donc là avec aussi une grosse équipe, puisque c'est les producteurs exécutifs de Mad Men, Maria et André Jack Mutton, et le producteur de Gravity et d'Harry Potter, David Heyman, qui veulent justement produire cette adaptation en série télé de DMZ pour la chaîne Syfy. Ça, j'étais un petit peu étonné,
Ça, par contre, oui, ça fait un peu plus peur, là.
mais voilà, donc ça, pareil, probablement un pilote qui va être tourné bientôt. Pour cette série. Bon, donc deux gros comics Vertigo adaptés bientôt en série télé. On sait qu'on a aussi iZombie qui est un petit peu dans le même genre qui va sortir en série télé. Ça va ramener pas mal de sous chez Vertigo, je pense. Donc,
Et Constantine.
ouais, et Constantine également,
Constantine
ouais.
chez NBC. Là, décidément, DC, ils se prennent peut-être une claque niveau film vis-à-vis de Marvel, mais alors là, par contre, niveau série, ils envoient du lourd. Reste à voir ce qui se fera, qu'est-ce qui passera le stade du pilote regardé par les chaînes, et quelles seront la qualité de ces séries si elles dépasseront les 12 premiers épisodes, voire la première saison.
Ouais, mais ça m'impressionne quand même. Ce nombre de séries adaptées de comics, j'espère qu'on va pas avoir une indigestion et...
Bah déjà qu'on a une grosse indigestion au niveau du cinéma, alors si en plus ils nous bousillent toute la télé, je sens que les gens vont devenir dingues et vont détester les comics. Bientôt. On verra,
Bon,
on
on
verra.
verra.
L'avantage, c'est que des séries comme Preacher ou DMZ ne sont pas des trucs
C'est pas
super-héroïques,
du
ce qui fait
super
que,
slip, ouais.
voilà, pour les gens, ils auront peut-être même pas idée que c'est adapté d'une BD au départ.
Le nombre
Comme
de gens qui ne
Walking
savent pas
Dead.
Walking Dead, ouais, c'est ça, c'est un comics à la base, c'est assez impressionnant, donc.
On va continuer avec des news en provenance de DC Entertainment. The Rock continue de jouer les rumeurs concernant ses implications vis-à-vis d'un projet de DC, notamment cette fois-ci avec Twitter.
Ouais, il aime bien mettre en avant le fait que voilà, il aime bien John Stewart et alors il avait tweeté avec un hashtag John Stewart can still whoop Superman ass, donc qui pourrait botter le cul de Superman. Et puis on sait qu'fin d'année on avait appris qu'il était peut-être en relation avec Warner Bros. pour travailler sur un projet en rapport avec DC Comics. Et donc de plus en plus, il y avait la rumeur comme quoi il pourrait peut-être jouer John Stewart dans soit Man of Steel 2, soit peut-être un autre film. Voilà, donc il fait monter un peu le buzz. Après, il n'y a rien encore de fait, il n'y a pas encore eu de confirmation.
Ah bah ça nous changeait de Ryan Reynolds en Green Lantern, c'est sûr.
Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Après, vu sa carrure, il pourrait peut-être plus faire Kilowog,
Aussi, aussi. Mais bon, je pense que voilà, avoir un quelqu'un d'assez connu comme ça pour reprendre John Stewart, qui est quand même le Green Lantern le plus connu à cause de la télévision,
ouais.
c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Non, non, c'est clair, mais bon. Ouais. Bah déjà, si c'est sûr que de faire revenir un Green Lantern dans les films qui soit mieux que Ryan Reynolds, déjà ça me plaît. Donc, mais faut voir, faut voir.
Ça c'est fait. Allez hop. Continuons avec toujours DC Entertainment et cette fois-ci la série Gotham dont on parlait un petit peu, enfin les autres séries dont on parlait juste précédemment. Gotham, une autre série qui débarquera sur la Fox à compter de cet automne. Eh bien, on sait qui va jouer le commissaire Gordon.
Oui, alors un acteur que je connais pas trop puisqu'il a bossé sur des séries que je ne suis pas, c'est Ben McKenzie qui a travaillé sur Southland et sur The OC et qui par contre a bossé en tant que doubleur de Bruce Wayne dans l'adaptation de Frank Miller de Batman Year One en animé. Donc il a quand même déjà bossé un petit peu avec DC. Voilà, après physiquement le mec a l'air habitué quand même au rôle un peu physique.
Enfin, au rôle de flic, surtout avec Southland.
Voilà, et rôle de flic, voilà. Bon, pourquoi pas. Il est pas rouquin, j'ai l'impression, mais.
Bon, peu importe, je trouve qu'il a un visage qui collerait un petit peu à un Gordon Junior, quoi. Enfin, Junior. Pas Junior, mais
Oui,
en tout
mais
cas
un
plus jeune,
jeune
quoi.
détective. Ouais,
Ouais.
un jeune Gordon, effectivement. Mais donc pourquoi pas. Bah, en tout cas, ça avance. On a des noms pour le casting. Maintenant, il reste à savoir qui va être le jeune Bruce Wayne. Voilà, donc. Puisque les deux personnages, on va suivre un peu leur vie en parallèle, à la fois le jeune Bruce Wayne et le jeune Gordon. Bon, on verra.
Enfin, pour terminer avec la partie DC, et notamment DC Entertainment et les séries, pour Flash, on a des annonces de casting. Alors,
Ouais.
notamment Iris West, qui va faire partie, bien sûr, du casting de The Flash, c'est Candice Patton. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Non, 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 mais plutôt mignonne, on va dire. Après, voilà, je sais pas dans quoi elle a joué trop comme série, mais.
Peu importe, voilà. Enfin, et surtout, l'annonce la plus folle, c'est qu'on
Oh.
a un personnage qui va ressembler énormément à Vibe.
Oui. Quand même un des héros les plus charismatiques de DC. Et donc Cisco Ramon, le fameux Vibe, et qui pourrait être joué par Carlos Valdez, c'est ça?
Oui, ça doit être ça, oui. Justement, oui, c'est ça. Carlos Valdez, oui, qui a
Et
joué
donc.
dans Once à Broadway.
D'accord, ok. Mais donc ce qu'on peut noter aussi, c'est quand même que Iris West, déjà, elle sera afro-américaine, ce qui confirme aussi, on avait déjà eu un West Black qui avait été annoncé. Donc, il continue un petit peu sur cette voie. Donc, voilà.
Ah là là, vibe. Vibe dans Flash.
Mais oui, bah oui. Vibe.
Bon. Ça me fait un peu peur cette série maintenant, là, d'un seul coup. Enfin bon, on verra si ce sera Vibe. C'est peut-être juste quelqu'un qui porte le nom. Certes, ça a l'air d'être un petit prodige qui bosse à Star Lab, etc. Reste à voir s'il prendra le costume de Vibe. Et s'il fera du breakdance. Rappelons-nous ces heures sombres des années 80. Allez, on passe à la franchise Marvel maintenant. Marvel qui a annoncé un nouveau rôle pour Age of Ultron, et notamment le rôle de Vision.
Ouais, et ça c'est assez intéressant puisqu'ils ont casté Paul Bettany pour jouer The Vision. Et c'est pas un personnage qui, enfin c'est pas un acteur qui a jamais bossé avec Marvel puisque c'est lui qui fait la voix de Jarvis en fait dans les films Iron Man.
Enfin bon, en même temps, il
Donc
y a tellement de modifications sur la voix que je ne suis pas sûr qu'on la reconnaisse
ouais,
beaucoup.
mais il y a peut-être un lien aussi de par le fait que il y a des rumeurs comme quoi Ultron serait construit par Tony Stark et
Et donc,
comme
par conséquent, vision aussi.
Vision aussi et du coup il y aurait peut-être ce serait peut-être un peu une évolution de Jarvis. sous forme d'un androïde. Et du coup, le fait d'avoir l'acteur qui prêtait sa voix à Jarvis avant, je trouve ça assez logique. Après, c'est un acteur que j'aime bien, Paul Bettany, assez classe. Et donc, c'est une bonne chose.
C'est bien parce que comme ça, tu pourras demander à l'androïde d'aller chercher des cafés, de ramener des rafraîchissements. C'est pas très grave. Ça fera moins un peu exploitation de personnes, tu vois, un peu moins le côté
C'est ça.
esclave. Ce qu'un robot, après tout, ça compte pas, quoi. On continue avec les franchises Marvel. Ant-Man aurait une nouvelle personne dans son casting. Il s'agirait
Ouais.
d'Evangeline Lilly.
Ah oui, j'aime bien Evangeline Lilly. Bah, l'actrice qu'on a pu voir dans Lost et dans le deuxième The Hobbit, bah voilà, elle serait en discussion pour pouvoir jouer dans Ant-Man. Donc, quel rôle, on ne sait pas. Peut-être Janet, peut-être. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est une actrice que j'aime bien et ça serait cool de la voir dans Ant-Man.
Les deux rumeurs portent soit sur Jane Van Dyne, hein, donc la guêpe, ou alors peut-être la fille de Hank Pym qui serait un intérêt amoureux pour Scott Lang.
Ouais. Mais oui, bah ça
Sachant que
serait
la
vraiment
fille de
une
Hank Pym,
pure.
c'est possible,
Ouais.
hein, c'est Michael Douglas qui joue Hank
Ouais.
Pym,
Mais
donc
ça,
on
ce
aura
serait
un
une
vieux Hank Pym.
création du. Parce qu'il me semble pas que Hank Pym ait une fille dans les comics. Enfin,
Non.
voilà, donc ce
Non,
serait.
c'est
Ouais.
Scott Lang qui a une fille.
Ouais, c'est pour ça, parce que ça. Mais ouais, non, ça me gênerait que ce soit ça. Je préférerais qu'elle joue Janet.
Ouais. Bah, pour jouer Janet, moi je pense que malgré tout, il faudrait peut-être caster. Voilà, son nom m'échappe. La vraie femme de Michael Douglas.
Ah oui, bah oui,
Oui,
bien sûr. Que
voilà.
bah oui, bah j'ai son nom sur la langue, mais
C'est pas son nom que tu voudrais sur la langue, hein, vieux
non.
cochon.
Catherine Zeta-Jones.
Merci.
Voilà,
Là,
c'est ça.
c'était en train de me hanter. Ouais, je pense que ce serait plus simple.
Ouais.
Bah,
C'est
ce
vrai, ça
serait.
pourrait être amusant.
Ça pourrait peut-être être moins repoussoir pour une actrice d'embrasser cette espèce de vieux truc ridé qu'est Michael Douglas aujourd'hui, quoi. Puis bon, là au moins il n'y aurait pas trop de rôle de composition, quoi.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas faux, puisque, comme, ouais. À moins qu'il fasse une Janet qui n'est pas mariée à Hank Pym, ce qui serait bizarre également, oui. Donc c'est vrai que ce serait peut-être plus logique
Non,
qu'Evangeline
mais
Lilly joue un personnage plus jeune.
en plus, niveau stature, enfin, elle a tout à fait la carrure, je trouve, pour endosser la guêpe, quoi, Catherine Zeta-Jones.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Enfin bon.
Elle a une taille de guêpe.
Voilà, c'était ça en fait. Continuons avec un nouveau nom et un nouveau film pour Marvel peut-être.
Oui, alors un nouveau nom, c'est Drew Pierce. Drew Pierce, c'est un réalisateur qui maintenant bosse pour Marvel Studios. Il a réalisé par exemple le Marvel One Shot All Hail the King, qu'on peut retrouver dans le DVD Blu-ray du film de Thor 2. Et il serait intéressé pour adapter à l'écran les Runaways. C'est un peu un grand projet qu'il a envie de faire. Et il est déjà en discussion avec Marvel pour. Il a plein d'idées. Des idées qui sont assez alléchantes, puisque bon, les Runaways, ce qu'il aimerait bien montrer, c'est voilà, montrer que les jeunes, avec des parents qui sont des méchants, ils pourraient s'opposer à leurs parents et que ce sera assez sombre. Il voudrait ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant au cinéma. Voilà. Après, Drew Pierce, il a été plutôt efficace, puisque là, le All Hail the King, on peut le trouver un petit peu sur Internet depuis quelques semaines maintenant, donc
Oh, c'est pas bien.
J'ai pu le regarder et c'est vrai que c'est un court-métrage vraiment très efficace, vraiment drôle, dans la veine de Iron Man 3, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'humour. Mais avec plein de petites pistes qui sont laissées par rapport au mandarin et la façon dont c'est filmé, c'est vraiment vraiment bien. Donc le voir sur un projet de long-métrage, ça pourrait être cool.
Bah, tu pourras le voir peut-être sur un projet de long métrage, mais qui ne sera pas d'univers Marvel Studios. Puisqu'il devrait être le réalisateur de Mission Impossible 5.
Ah, d'accord, ok.
Apparemment.
Ok. Bon, bah en général, ceux qui bossent sur Mission Impossible, ils ont quand même ils font de bons films derrière, donc. Enfin, mis à part John Woo.
Ouais, j'étais en train de chercher ce qu'il avait fait
Mais
John
bon, il y
Woo
avait quand
après.
même, il y a eu J.J. Abrams qui en a fait un, il y a eu récemment, c'était le réalisateur de.
Je ne sais même plus le catch, comme je ne l'ai pas vu, je ne sais
Oh, je
même
sais
pas qui
plus.
l'a réalisé.
Mais c'était bien, c'était bien, c'était bien réalisé.
Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est vrai, effectivement. Continuons toujours sur Marvel Studios. On parle de la phase 3, bien évidemment, qui est la prochaine phase, qui est le centre de toutes les attentions, savoir 8 ans à l'avance ce qui va se passer, ça fait
Ouais.
toujours plaisir.
Après Avengers 2, donc.
Et eh bien, on parle peut-être d'un des films, celui de 2016. Ce serait une possibilité que ce soit Guardians of the Galaxy numéro 2.
Eh oui, donc ils ont, ouais, c'est des petites rumeurs. Ils ont confiance dans Gardien de la Galaxie. Il y a un bon buzz autour de ce film. Il y a beaucoup d'attentes. Jusqu'à présent, les films Marvel Studios, ils ont quand même tous fonctionné en franchise. Donc on a eu Thor 1, Thor 2, Iron Man 1, jusqu'à 3. Donc ça me paraît logique qu'ils fassent un deuxième Gardien de la Galaxie, à moins que le premier se termine avec la mort de tous les membres, mais ce qui me paraît un peu bizarre.
Bah, ce serait con, sachant qu'il y a un dessin animé qui arrivera sur Disney XD dès
Voilà, ouais.
l'automne 2015.
Puis c'est tellement de possibilités de toys et tout, et de produits dérivés, les Gardiens de la Galaxie, que c'est un peu une mine d'or pour Disney et Marvel.
Hein, le Rocket Raccoon Sextoy, moi je pense que ça se fera.
Donc, si c'est pour 2016, ça serait en face justement de Superman 2, le Man of Steel 2, donc qui est prévu aussi pour le début de l'année 2016. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
C'est vrai que ce serait un gros coup. Il y a déjà tellement d'attentes autour du premier. Alors à moins que le premier soit une énorme déception, mais ça me paraît peu probable. Effectivement, ça pourrait être un gros coup à mettre en face de Superman. Reste à
Ouais.
voir si ce n'est que de la rumeur totalement infondée ou s'il y a quand même une bonne part de vérité derrière tout ça. De toute façon, les plans de Marvel vont jusqu'à 2021. Donc on n'est pas prêt d'arrêter d'en bouffer des
J'adore.
films. Ah
J'adore.
ouais, apparemment, Kevin Feige a dit qu'ils avaient des plans jusqu'à 2021 déjà pour la franchise, pour les franchises ciné.
Mais ce serait d'enfer d'avoir comme ça une franchise qui sur 20 ans produit plusieurs films par an, enfin ça ferait une continuité vraiment intéressante et j'espère qu'ils vont continuer comme ça parce que avoir des reboots ça me saoulerait. Surtout que les films sont bons, ils vieillissent pas trop, mine de rien. Les premiers films Marvel Studios, Iron Man 1 par exemple, on le regarderait maintenant, on trouvait pas qu'il a trop vieilli.
Ouais, enfin en même temps, c'est que 2008, quoi.
Oui,
Ça va.
mais bon. Ah, il y a des films de 2008 qui ont bien vieilli, hein.
Ouais, enfin quand même.
Mais ouais, non, ça me plaît bien qu'ils aient des plans comme ça sur le long terme.
Bah, reste à voir si les gens ne vont pas se lasser. Moi, c'est ce qui me fait très peur.
Bah, il faut qu'ils soient intelligents, qu'ils essayent pas absolument de garder toujours les mêmes, enfin de s'embêter avec le coup des acteurs, qu'ils fassent peut-être, je sais pas, des passages de relais, qu'il y ait vraiment une sorte de continuité dans le temps. Et voilà, qu'ils nous fassent un film Young Avengers par exemple bientôt. Ça pourrait être cool.
À voir, ce serait bien la première fois que Marvel fait du passage de relais, hein.
Ouais, mais justement, c'est les films, ils peuvent se permettre d'autres choses.
À voir. On passe maintenant à Sony, toujours sur la branche Marvel, hein, puisque rappelons que Marvel a trois branches de films, la branche studio Marvel Studio, la branche Sony qui gère Amazing Spider-Man, et puis la branche Fox qui gère les X-Men et les 4 Fantastiques. Pour Amazing Spider-Man 2, une nouvelle annonce de casting, BJ Novak qu'on avait pu voir, BJ, pardon, BJ Novak qu'on avait pu voir au casting de The Office notamment, eh bien, il a enfin son rôle d'annoncé. Il s'agirait de Spencer Smythe.
Ouais, donc un personnage connu des fans de
Non, pardon,
Spider-Man.
le Alistair. Ce serait Alistair Smythe, excusez-moi.
Ouais, et qui est le Spider Slayer, qu'on a pu voir dans Superior Spider-Man récemment, qui a mal fini.
Ou que tout le monde a pu voir pendant cette magnifique série des années 90, le dessin animé des années 90, qui était très bon, où Smite était un personnage très récurrent.
Donc encore un nouveau méchant, peut-être qui sera à peine évoqué dans le deuxième film et qui apparaîtra un petit peu plus dans le troisième. Bon, voilà. On n'en sait pas beaucoup plus, hein, pour l'instant.
Avec maintenant la Fox et le reboot des Fantastic Four, un nouveau nom au casting.
Emmy Rossum, donc une jeune actrice qui rejoindrait le cast. Donc
Et pour le rôle de Sue, bien évidemment.
ouais, tout à fait. Donc ça continue le casting pour ce film. A priori, Michael B. Jordan a été choisi pour jouer Human Torch, ce qui me paraît un petit peu étonnant, mais voilà.
Elle a aussi, c'est une actrice très jeune, hein, donc on va avoir vraiment une version assez jeune des 4 Fantastiques, sachant qu'on a Mark Millar qui gère toutes les franchises Fox. M'étonnerait pas qu'on adapte la version Ultimate qui est sa version à lui.
Ouais. Après, Michael B. Jordan est un afro-américain, donc c'est un petit peu bizarre qu'il soit le frère de Susan Storm
Bon,
qui serait.
ce seront des frères adoptifs.
Ouais.
Enfin, frères et
ils
sœurs
veulent
adoptifs.
changer plein de choses, quoi. Mais... Il y
Et
a eu
puis,
des
bien.
rumeurs, enfin, on va pas en parler, mais il y a eu des rumeurs comme quoi, comme le méchant, ça serait Docteur Doom, que ce serait peut-être une femme Docteur Doom. Donc, ça a été vite effacé, mais ça avait fait jaser un petit peu sur Internet à un moment.
Franchement, ça commence à puer la merde, hein.
Mais bon, en tout cas, voilà, ça, ils ont confirmé par contre que le vilain du film serait Docteur Doom.
Reste à voir si c'est Docteur Doom ou Doctorette Doom.
Ouais, non, je pense pas.
Oh, ils sont pas assez prêts, ce sera un chien en fait. Ils sont pas assez prêts. Allez, on passe maintenant à des projets un peu plus indépendants, en tout cas en termes de comics adaptés. Ça reste une branche de chez DC malgré tout, puisqu'il s'agit d'un comic Wildstorm qui va être adapté. Ça s'appelle The Red Star.
Ouais, et c'est Josh Trank qui serait impliqué dans la réalisation de ce film. Red Star, c'est un comics qui nous parle un petit peu d'une réalité alternative dans laquelle la Russie en fait a une évolution un petit peu différente que ce qu'elle a eu, avec un monde un peu magique et technologique, voilà, avec pas mal de conflits armés je crois que ça parle du conflit en Afghanistan et compagnie. Voilà, moi je l'ai pas lu ce comics, mais
C'est vrai que je l'ai jamais lu non plus.
dans l'article il montre quelques images, ça avait l'air pas mal effectivement. Donc voilà. Josh Trank qui a bossé sur Chronicles, qui était déjà presque un film de super-héros et qui
Oh
est.
bah c'était pas presque, hein.
Ouais. C'était un film de super-héros sans licence, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, totalement.
Et c'était très réussi.
Moyennement d'accord, par contre. Mais bon. Passons.
Parce que. Ouais.
Moi, c'est
Non.
le coup de la caméra à l'épaule, je peux pas, quoi.
Ah oui. Ouais.
Je trouve ça très mauvais, personnellement. Mais bon. L'histoire était pas trop mal, même si très, très, très classique pour des gros lecteurs de comics comme nous, on devine tout 15 minutes à l'avance.
Mais la fin faisait très Akira,
Ouais,
c'était vraiment
enfin,
bien fichu la fin.
j'ai pas été un seul moment surpris dans ce film. C'est bien là le problème, quoi, pour moi. Enfin bon. Passons à un autre gros nom qui va adapter de l'indé. En tout cas, il en a récupéré les droits, c'est Bryan Singer.
Oui, de l'indé, sur quelque chose qui n'est pas encore sorti, un comics qui s'appelle Haunted, dont les premières pages et les premières images seront dévoilées dans un Free Comic Book Day. Et donc c'est un comics sur le paranormal puisque ça va nous raconter l'histoire d'un monde dans lequel en fait les fantômes vivent. Le pitch en fait est dit ouais dans les films de maison hantée c'est toujours pareil, le héros s'il s'en va de la maison bah du coup il s'en sort. Là on va imaginer qu'en fait même en dehors de la maison il y a plein de fantômes et voilà donc on va suivre un personnage dans un monde avec plein de fantômes partout. Bon pourquoi pas. Bah faut voir déjà un peu ce que donne le comics là, on saura bientôt en mai. Mais voilà, ça a intéressé Bryan Singer en tout cas pour en récupérer les droits.
Alors c'est une série qui va sortir chez Red 5 Comics, hein, ceux qui publient notamment Atomic Robo, entre
Ouais.
autres, mais qui ont aussi publié Néozoïque, hein, qui a sorti pas mal de petites choses. Et puis, bah, donc, alors, à savoir si ce sera Bryan Singer qui réalisera, en tout cas c'est sa société de production qui a récupéré les droits, donc à savoir Bad Hat Harry. Enfin, on termine par un projet français qui sera diffusé sur Canal. Donc ceux qui sont abonnés pourront le voir et ceux qui ne le sont pas encore, bah, abonnez-vous juste pour ce mois-ci. Enfin pour le mois de mars en tout cas, puisque c'est un documentaire sur Marvel là.
Oui, Marvel Renaissance. Donc, bah, j'ai pas trop regardé, j'ai pas vu s'il y avait une bande-annonce, mais voilà, ça nous parlait des films, hein, surtout, de l'adaptation un petit peu au cinéma, des franchises Marvel. Bon, c'est un sujet qui a le vent en poupe en ce moment, hein, les comics, donc.
Bah, le sous-titre de ce Marvel Renaissance, c'est Comment les super-héros ont conquis Hollywood. Il sera diffusé le vendredi 7 mars à 23h15, juste après la diffusion du film Avengers. Voilà, tout simplement. Donc grosse soirée pour les fans de comics sur Canal, le 7 mars.
Ouais.
On passe maintenant à la partie jeux vidéo. Deux petites news pour le jeu vidéo. On a Kevin Conroy qui tease un nouveau jeu Batman Arkham.
Ouais, alors après ça c'est pareil, c'est un petit peu des
Le teasing
supputations.
vraiment.
Mais en fait des gens lui ont posé la question si il allait avoir un nouveau Batman Arkham de prévu et il a dit qu'il n'avait pas le droit de. Enfin, il avait rien à révéler pour l'instant. Il n'était pas autorisé surtout à révéler quelque chose. Donc là, tout de suite, on peut penser que s'il n'est pas autorisé à le faire, c'est parce que justement il travaille sur quelque chose. Mais ça, c'était déjà un petit peu des rumeurs qu'on avait depuis quelques temps. Alors, il y a de très grandes chances que le studio d'origine, qui justement avait passé le flambeau pour Batman Arkham Origins, reprenne la licence et nous fasse quelque chose sur Next Gen, quoi.
De toute façon, les jeux Arkham sont des énormes cartons. Je vois pas pourquoi ils arrêteraient une licence qui fonctionne. Oui. Ils iront jusqu'au moment où les gens n'achèteront plus, tout simplement, et que la franchise périclitera d'elle-même parce qu'elle ne rapportera pas assez d'argent par rapport au coût de production. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on fait depuis le départ. Je vais reprendre l'exemple de Mass Effect, où on nous a dit c'est une trilogie, ça a tellement bien marché qu'on nous dit finalement, il y en aura un 4.
Ouais.
Regardez Assassin's Creed, c'est une trilogie, finalement il y a un 4. Donc bon, voilà, faut pas croire que ça va s'arrêter comme ça. Les nouvelles licences sont tellement dures à implanter aujourd'hui dans le jeu vidéo qu'on préfère utiliser les vieux pots, quoi, tout simplement. Et malheureusement, on ne fait pas toujours les meilleures soupes à l'intérieur. Ce qu'il faut, il faut laver le pot entre les deux.
Oh là là.
C'est très imagé, mais il ne suffit pas faut pas se contenter de reprendre exactement les mêmes ficelles qui marchent, quoi. Ouais, c'était d'ailleurs la grosse critique d'Arkham Origins que j'ai lue partout. C'est que c'est vraiment trop classique, il n'y a rien de nouveau, quoi. Ouais, certes, ce n'était pas le même studio, mais quand même.
Ouais, mais justement, il y a des rumeurs comme quoi Rocksteady, son idée serait peut-être de faire un Justice League un petit peu façon le comics Justice League.
De Jeff Jones?
Non, pas de Jeff Jones. Justice League, qui était un peu old school, qui était très très bon d'ailleurs. De Darwin Cook.
Alors là, comme ça, je ne sais pas.
Mais de Darwin Cook, tu sais, Justice League, bien sûr, on connaît
The
que
Nail.
Ça. Non, bon, c'est pas grave. Mais vous saurez, les auditeurs. Enfin bon, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait un peu une adaptation de ça. Et ce serait bien, c'est vrai, de changer un petit peu, de pas se retrouver toujours dans Arkham et de voir autre chose, quoi. New Frontier, voilà. Ah, Justice League New Frontier.
Allez, on passe à un autre jeu, cette fois-ci beaucoup, 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 beaucoup moins prestigieux. Il s'agit du film Captain America The Winter Soldier sur mobile. Ouais. Et là, tout de suite, ça jette un froid.
Bah, surtout quand on voit le studio qui développe.
Et oui, il s'agit de nos amis de chez
Gameloft.
Gameloft, voilà, ça me piquait la bouche. Gameloft qui font des jeux sur mobile, certes peut-être très jolis ou qui a beaucoup de public, mais dans lequel il faut beaucoup payer surtout. Ouais. En même temps, à la base, ils sont pas là pour faire de la charité, les mecs, mais les jeux Gameloft,
un jeu en cel shading d'action, voilà.
Ouais, regardez le teaser, vomissez un peu. Franchement, moi je trouve ça affreux, quoi. Le cel shading, j'ai toujours détesté, mais alors là, franchement, c'est vraiment du cel shading, du début du cel shading, quoi. C'est vraiment très laid. Enfin bon. Bref. En même temps, ça reste sur mobile, mais c'est quand même pas une raison pour être moche comme ça. Puis ça a l'air franchement vraiment pourri. C'est un jeu Gameloft, quoi. Allez, on va passer au bref comics de la semaine. On commence avec de la VF.
Oui, avec l'annonce de Miracle Man en français, qui débarquerait en mai dans une collection Marvel Deluxe. La nouvelle collection Marvel Deluxe, qui est un petit peu moins épaisse, pour 144 pages et qui coûterait 14,95. Donc ça a été annoncé par Panini, ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'il y a très peu de temps du coup entre la sortie américaine et la sortie française.
Oui, enfin, en même temps, c'est du vieux matos.
Même si c'est du vieux matos, effectivement. Mais bon, voilà, je suppose qu'il va y avoir une nouvelle traduction. Enfin, peut-être, on sait rien.
Je sais même pas si ça avait été adapté en français, j'ai un doute.
Ah, si, je crois que c'est. Je suis un ancien éditeur. Je crois
d'accord,
que
ouais.
Là, mais avant.
J'ai eu le doute.
Et
c'est bien. Franchement, la librairie, c'est typiquement le média pour adapter Miracle Man et pas le kiosque.
Ah oui, non. En kiosque, ça aurait été un flop. Mais voilà, en librairie, c'est une bonne idée. Ils ont également annoncé les Marvel Select qui vont sortir au mois de mai et de juin, puisqu'on aura une réédition de X-Men Les Origins, un Marvel Select qui va reprendre les 300% réunis en un seul volume, donc ce qui est une bonne idée. Et puis au mois de juin, on aura le quatrième et dernier volume de New X-Men. Pour une soixantaine d'euros, on peut avoir l'intégrale des New X-Men de Morrison, ce qui est quand même une très bonne chose pour pas cher.
Et puis mai et juin, c'est quand même les mois où on aura First Class, donc il faut en profiter. Et ils ont tout à fait raison.
Après toutes les sorties Spider-Man qu'on va avoir juste avant.
Au mois d'avril, effectivement.
Puis les sorties de Captain America juste avant, oui, non, c'est normal.
Passons chez Urban maintenant. Urban qui a un projet assez particulier, un semi-Kickstarter.
Ouais, c'est sur leur site WarnerBros.fr. Il y a pas mal de petits projets qui tentent, où en fait, Le projet n'a lieu que s'il y a un certain nombre de précommandes. Ils ont eu ça, par exemple, pour avoir une réduction sur le coffret de la série animée. Et là, ils font ça pour une couverture limitée pour le comics Joker Anthology qui va sortir chez Urban très bientôt. Donc, ce serait une couverture d'Alex Ross limitée à une centaine d'exemplaires, je crois.
500.
500, voilà. Et donc, mais pour ça, il faut qu'il y
500.
ait suffisamment de précommandes sur
Alors,
le
il
site.
reste 21 jours, 3 heures, 13 minutes et 50 secondes au moment où on enregistre. Donc, vous l'aurez demain. Donc, et déjà, il y aura au moins 12 heures de moins. Et il ne reste plus que 104 commandes, sachant que c'est 500 exemplaires maximum.
Voilà.
Donc,
Bah, c'est
peut-être
ça
que
qui fait
demain, au moment
la
où vous
rareté du truc,
écouterez
quoi.
l'émission, eh bien, ce sera peut-être déjà terminé. Mais sinon, jetez-vous dessus si vous n'étiez pas au courant. Voilà. Et c'est
Voilà,
prévu pour le 21 mars.
c'est ça.
Allez, on passe à d'autres news. Cette fois-ci, c'est de la news VO et on commence avec les chiffres de vente du mois de janvier 2014.
Ouais.
Des chiffres en baisse.
Ouais.
Clairement en baisse. Puisque si on compare avec janvier de l'année précédente, nous avons une baisse d'environ 5%. Alors, plusieurs possibles explications à cela. Déjà moins de comics, un petit peu moins de nouveautés sur les bandes, enfin sur les bacs, pardon, dans les bacs par rapport à l'année dernière, et puis par rapport, pardon, au mois de décembre, et puis surtout un temps absolument horrible aux États-Unis. Il a fait quand même sacrément froid, des grosses tempêtes de neige, etc. Et ça peut avoir joué aussi énormément sur les gens qui n'ont pas forcément passé leurs commandes, qui n'ont pas été les chercher. Je sais pas trop comment ça a été calculé tout ça.
Ouais, mais bon, enfin, ça reste relatif quand même le déclin. Il y a quand même encore beaucoup de ventes. Ils disent que c'est meilleur, enfin, c'est toujours meilleur. Enfin, c'est 21% mieux que janvier 2012.
Oui, donc de
Donc,
toute façon, voilà.
ça va quoi.
En termes de dollars rapportés, en revanche, il n'y a qu'une perte de 0,42% concernant janvier 2013 face à janvier 2014. Donc, c'est pas une grosse perte, c'est la preuve que les comics sont plus chers.
Ah oui.
Le mec.
Surtout avec un Détective Comics à 8 $, 27, qui s'est très bien vendu.
J'annonçais, pardon, une baisse de 5% vis-à-vis de janvier 2013. Non, c'est une baisse de 7%. 5%, c'est la baisse face à décembre, c'est-à-dire au mois dernier. Alors, le top. On va faire le top 10 des graphic novels, parce que pour le moment, on n'a que le top 10 des graphic novels. On parlera un peu
Non,
plus en
non,
détail.
des singles, tu veux dire.
Non, mais pour le moment, on n'a que le
Ah
top
pardon,
10 des
pardon,
graphic novels.
excuse-moi,
C'est pour
excuse-moi.
ça qu'on va commencer par ça. On fera les singles juste après, parce que là, on a déjà le top 100
Ouais,
d'annoncer.
c'est vrai.
Alors pour les graphic novels, bah, pff, ça reste très très classique. Saga volume 1 est premier,
Oh, oui, voilà.
suivi de Walking Dead volume 1.
Les grands classiques.
Voilà, les grands classiques, hein, toujours aux deux premières places. All New X-Men volume 1 se paye le luxe d'être troisième ce mois-ci.
Ouais, la l'édition en souple.
Le Superior Spider-Man volume 4 prend la quatrième place. Ensuite, en cinquième, Batman 66 de TV Series.
Oui, assez étonnant. C'est un petit peu un ovni, puis c'est du très vieux matériel en fait qui avait inspiré des épisodes de la série télé.
Le retrouver à la cinquième place, bah c'est plutôt pas mal pour DC. Sixième place, Saga Volume 2. Pas
Ouais.
étonnant non plus.
Non.
Septième place, X-Men Battle of the Atom, le hardcover à 50 fucking
Oh oui.
dollars.
Ouais, ça c'est super cher.
Waouh, ça fait mal au cul. Hein.
On
À la
rappelle qu'en
huitième.
français, il y en aura pour 10 $, hein, enfin 10 € je veux dire, pour
Oui, mais
avoir
bon,
tout
c'est pas une
l'ensemble.
version hardcover, c'est sûr. Mais
Non, c'est vrai, mais bon,
là, quand même, ils abusent,
ça
quoi.
prend cher.
50 dollars pour Battle of the Atom. Surtout connaissant nos avis sur Battle of the Atom. Voilà. Huitième place, The Unwritten Volume 8. Neuvième place, Batman The Dark Knight Volume 2, qui est un TPB, pas une version hardcover. Et enfin, à la dixième place, Thor God of Thunder Volume 1, version souple, là aussi. Et d'ailleurs, on remarque quand même que si on compare les souples de DC, ils sont à 15 dollars, les souples de Marvel sont à 20 dollars.
Ouais, c'est un peu étonnant. Les souples, j'étais hyper étonné du prix, puisque le hardcover est à 25, le souple est à 20. Il y a très peu de différence entre les deux.
20
Surtout que
dollars pour 5 épisodes, c'est quand même très cher.
les autres souples qu'ils font sont plutôt autour de 15 ou 17 en général. Et là, comme c'est les séries majeures, elles sont plus chères. Et
Est-ce qu'à ce
c'est un
prix-là, il y a
raisonnement.
au moins la copie digitale ou pas?
Non, même pas. Il y avait la copie digitale dans la version hardcover, par contre. Donc les 5 € supplémentaires de la version hardcover étaient en plus Enfin, ça avait plus de sens avec la copie digitale.
Faites le calcul, 5 épisodes, 20$, ça vous fait 4$ l'épisode, autant les acheter en single. Hein.
Ouais, c'est clair.
Qui en plus finiront par coter au bout d'un moment. Donc
ah,
vous êtes
non,
gagnant, quoi.
C'est vraiment très cher, moi, je trouve, ces TPVO. Heureusement, en français, ça sortira au prix de 15 euros.
Ouais. Ou alors dans les kiosques, si vous les avez déjà
achetés,
oui, bien
oui,
évidemment.
Voilà.
On va maintenant passer au top des singles. Alors là, un top assez intéressant, puisque le premier, en termes de quantité, n'est pas celui qui a ramené le plus d'argent.
Ouais, oui, voilà. Mais par contre, c'est très Batman, hein. Donc,
Ah
le
bah
premier, c'est Batman 27, et le deuxième, c'est Detective Comics 27. Mais effectivement, comme Detective Comics 27 coûtait 8$, c'est sûr que c'est lui qui a rapporté le plus d'argent ce mois-ci.
Étonnant hein, que celui qui soit premier ne soit pas celui qui ramène le plus de fric, c'est pas quelque chose que l'on voit très souvent.
Mais c'est des très très gros chiffres hein, pour le Detective Comics 27. Il a vraiment très bien marché, c'est très bien vendu. Donc,
À la troisième place, on retrouve le Avengers World numéro 1.
Ouais.
Pas étonnant. Nouvelle
Non.
série Avengers, nouveau numéro 1, Jonathan Hickman, c'est pas étonnant. Ensuite, le Justice League 27 prend la quatrième place. Pareil, là non plus, pas vraiment surprenant.
Non, c'est un gros titre, ouais.
Mais moi, ce qui me surprend, par contre, c'est que, eh bien, on ne voit pas de Forever Evil.
Oui, mais c'est parce que en fait, le 4 était sorti le 25 décembre, 24
Ah
décembre.
oui, c'est vrai
Et
que le
il y a
5
eu
vient de
presque un
sortir.
mois, en fait,
Ouais.
entre le. Il y a eu un peu plus d'un mois,
Oui,
et l'autre qui
c'est
sort.
vrai, tu as raison, ouais, effectivement. D'où cette impression de lenteur
Ouais, c'est ça.
extrême. Superior Spider-Man numéro 25 prend la cinquième place. All New X-Men numéro 22 prend la sixième place. Hein, bien sûr, ce fameux point Now qui avait un plus gros numéro 1 sur la cover
Ouais.
que le numéro 22. Enfin, le numéro normal, en fait, de la série. Superior Spider-Man 26 est septième. Harley Quinn garde pour son deuxième épisode une place dans le top 10 à la huitième place.
En volume, très très gros volume de vente.
Mais ça, c'est très très bien d'ailleurs. Hein. Une
Ouais.
série quand même pas non plus méga méga attendue, qui n'a pas l'aura de Batman. Enfin,
Ouais.
elle était attendue certes par les fans, mais elle n'a pas l'aura de
Ah,
Batman et pourtant
c'est un très
huitième
très gros
quoi.
succès. Et à noter que ça a tellement bien marché que les seconds printings, d'habitude on a droit juste à la même couverture. Et que ce soit pour le numéro 1 comme pour le numéro 2, il y a carrément une nouvelle couverture qui a été faite pour l'occasion. Et c'est vraiment une bonne chose. Voilà, c'est vraiment un titre qui marche très très bien chez DC.
Ensuite, Avengers 25 prend la 9e place et Justice League of America prend la 10e place. On va aller voir ce qui est un petit peu en dessous le top 10, puisque c'est l'avantage. On a eu juste avant l'émission le top 100. Merci Bruno, qui l'a trouvé. Walking Dead 120 se classe 11e et Walking Dead 119 se classe 12e. Alors certes, ils ne sont pas dans le top 10, mais il y avait deux numéros ce mois-ci, donc peut-être un peu moins de commandes.
Oui, et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit comment les gens qui achètent le 119 achètent le 120. Il y a exactement les mêmes chiffres pour les deux titres.
Bah, il y a même un peu plus de 120 de vendus
Ouais,
que de 119.
mais léger, léger. Mais non, mais c'est un titre qui marche très fort. Et puis le fait d'avoir augmenté le rythme de parution, ça n'a pas baissé l'engouement sur le titre, au contraire. Donc non, c'est une bonne
Deux
chose.
fois plus d'argent pour Robert Kirkman, évidemment.
C'est ça.
Bon, il a raison, après tout. Enfin, je veux dire, commercialement parlant, il a raison. Après, créativement parlant, c'est une autre histoire. Mais... Ensuite, nous avons Origin 2, numéro 2, qui se classe 13e.
Ouais.
Assez surprenant au vu de la qualité du premier. Et surtout vu la qualité de ce 2, mais là les gens l'ont découvert. J'attends de voir le numéro 3 où il sera classé. All New X-Men 21 se classe 14e. Guardians of the Galaxy numéro 11, 15e. Toujours une très bonne vente. Hein. Batman Superman 16e, numéro 7, pardon, et 16e. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu les numéros 1 de Marvel. On a le All New Invaders qui se classe 18e, le Black Widow numéro 1 qui se classe 20e,
Ouais.
le Avengers World numéro 2, alors autant le premier est numéro 3, le numéro 2 est déjà 21e. Donc comme quoi beaucoup de
Ouais.
gens commandent le premier numéro et attendent pour
Voilà,
commander le
après,
deuxième. Hein.
ouais. Mais le gros score, c'est pour Miracle Man, le numéro 1 qui est 23e, mais comme il coûtait 6$, au niveau du dollar cher, il est 5e. Donc il est dans le top 5 des grosses ventes qui ont apporté de la thune ce mois-ci. Donc Marvel a fait un très bon choix en rééditant ce titre en format single. Donc ouais. Ça leur a rapporté pas mal d'argent.
All New X-Factor numéro 1 se classe 30e, par exemple. Justice League 3000 continue de plutôt pas mal marcher, quand même 34e pour cette plus petite série, mine de rien.
Ouais, non, c'est plutôt bon.
Le deuxième Miracle Man, eh bien, le premier est, comme tu l'as dit, en termes de nombre de ventes, 23e. Eh bien, le deuxième se classe 44e. Donc là, encore une fois, pareil, les gens ont dû commander le numéro 1 et puis se dire j'attends un peu pour le numéro 2. Malgré tout, il est à la 26e place en termes de prix de revient. Et puis, ensuite, le All New Marvel Point One, qui a été franchement pas un gros succès hein, ce mois-ci, il est classé 54e.
Ouais.
Mais il y a pire. Il y a une Humanity numéro 2, qui est 61e.
Qui n'a pas été très très commandé.
Inhumanity qui fait décidément un gros flop. Hein. Le Inhumanity Spider-Man est 69e, par exemple. On verra où ça va aller. Espérons que la série avec Charles Soule au scénario et Joe Madureira au dessin remonte un petit peu ça. Parce qu'ils vont en avoir besoin, je pense, chez Marvel. Bonne petite surprise. Injustice Year 2, la version papier, est 90e quand même. Ouais. Elle est classée dans le top 100.
Ouais, non,
pour 100%. Pour un titre que beaucoup ont commandé en digital, donc ne vont pas forcément prendre en papier, et puis un titre un peu moins en vue quand même que les autres séries.
Non, mais il y a vraiment du bon buzz sur cette série. Puis alors, l'ancrage est sublime. Donc...
Coucou à Julien s'il nous écoute.
Voilà,
on sait qu'il nous écoute d'ailleurs. En direct même. Hein. Allez, on passe à la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le top.
Juste un dernier petit mot. Au niveau des en indé, moi, il y a le truc qui m'a marqué, c'est le succès de Serenity. Il y avait un gros buzz par rapport à la sortie de ce titre. Et effectivement, il se classe 29e. Donc chez Dark Horse, ils ont dû être contents de voir ce bon résultat parce que après la perte de Star Wars, il faut qu'ils aient des licences un petit peu phares et qui marchent. Et Serenity, c'était une bonne idée. En tout cas, le premier numéro a séduit.
En même temps, Serenity jouit d'une énorme aura auprès de ses fans.
Ouais.
Tout comme Buffy, par exemple.
Faudra voir comment le titre se porte sur les prochains mois, mais...
J'ai envie de dire comme tous les projets de Whedon, en fait. Quoique les Dollhouse en comics n'ont pas été un franc succès. Hein. Ça s'est arrêté au cinquième épisode. Donc bon, qui sait, peut-être reverra-t-on un jour du Dollhouse en comics pour combler un petit peu ce manque de licence. On passe donc à une autre actu un petit peu en dehors des studios, mais une actu assez importante. J'avais vu passer ça la semaine dernière sans y prêter forcément attention. J'avais vu le tweet de Dan Abnett. C'est Dan Abnett qui révèle qu'il ne travaille plus avec Andy Lanning depuis un petit moment déjà.
Oui, donc c'est assez étonnant puisque jusqu'à il y a encore pas si longtemps, on parle tout le temps de DNA, de leur... de la relation un petit peu qu'ont Abnett et Lanning sur tout ce qu'ils ont, sur tous leurs travaux en fait. On les connaît presque plus pour leurs travaux ensemble que pour leurs travaux personnels. Et en fait, ça fait un moment qu'en fait ils bossent plus. Ça fait depuis le début de l'année dernière qu'ils bossent en solo et voilà.
Andy Lanning par exemple est seul hein, sur Revolutionary War.
Ouais, tout à fait. Pourquoi ça s'est arrêté, leur collaboration, on a eu droit à quelques petites explications qui sont restées un peu de l'ordre, qu'ils avaient plus envie de travailler ensemble, que on sait pas vraiment le fin mot de l'histoire, mais ils avaient envie de prendre chacun leur liberté.
Ouais, apparemment, ce serait des divergences créatives, hein, d'après ce qu'on a pu voir par-ci, par-là. Bon, en tout cas, ils ont fait énormément de bon boulot ensemble. Même s'ils vont bosser chacun en solo, tous les deux sont de très très bons scénaristes et justement on aura deux fois plus d'histoires peut-être.
Ouais. À noter qu'il y a quand même une petite exception, c'est pour le préquel du film de Gardiens de la Galaxie. Ils ont retravaillé ensemble exceptionnellement. Ils ont été invités plusieurs fois pour le tournage de Gardiens de la Galaxie et ils se sont pas mal liés d'amitié avec le réalisateur. Donc en hommage, ils ont quand même bossé ensemble pour faire ce préquel. Mais par contre, l'épisode qu'on va avoir dans le numéro soi-disant 100, qui correspond, je crois, au numéro 26 ou un truc comme ça, ne sera pas écrit par Dan Abnett en Dylaning, mais juste par, je crois, Dan Abnett. Voilà, en solo.
Bon, reste à voir s'ils ne retravailleront plus jamais ensemble. Hein. Ce genre de couple-là peut très bien, d'ici 4-5 ans, nous refaire une histoire ou un projet et justement profiter de ce buzz, de cette reformation. Ce ne serait pas la première fois que l'on voit ça, d'ailleurs. On va terminer notre partie news un petit peu en marge des studios avec une news un petit peu triste, mine de rien. C'est la mort de Gary Arlington. Alors, Gary Arlington, vous ne le connaissez sûrement pas. Je dois avouer que avant d'avoir vu cet article, je ne le connaissais pas non plus.
Moi non plus.
C'est quelqu'un qui est mort cette semaine à 75 ans. Et Gary Arlington était en fait le fondateur du premier comic shop.
Ouais. Donc à San Francisco, un comic shop qui est très connu aux États-Unis et qui était très influencé par tout ce qui est les comics indépendants, puisque voilà, on a eu des auteurs comme Robert Crumb. Qui ont beaucoup foulé les planches de ce comic shop. Bon bah ça devait être une mine d'or hein, ce comic shop. Je suppose qu'ils avaient une collection de fous. Et
bon, voilà, donc le plus drôle c'est la façon dont ça a commencé en fait. Gary Arlington avait expliqué que c'était en fait simplement parce qu'il crevait la dalle, il avait super faim, il n'avait pas de boulot, il n'avait plus d'argent, et en fait il a ouvert ça tout simplement parce que, je suis en train de taper sur le chien en même temps qu'il fait du bruit,
si, voyons.
Il a ouvert ça tout simplement parce qu'il avait énormément de comics chez lui, chez ses parents, et au bout d'un moment il avait vraiment besoin de manger, il a ouvert ça en se disant en vendant ce que j'ai, je vais peut-être arriver à pouvoir joindre les deux bouts, et ça a décollé et c'est devenu une véritable institution. Comme quoi, finalement, juste une histoire de fric, quoi.
Ouais.
Donc, une histoire de fric pour manger. Enfin, vraiment, le mec, était vraiment au fond du trou.
Il a eu le nez fin et ça a été une belle histoire après. Donc, c'est vrai que c'est un bel hommage. Il y a pas mal d'auteurs qui se sont exprimés après sa mort et voilà, qui le connaissaient. Donc, le mec a dû faire des rencontres de fous.
C'est clair, c'est clair. Allez, on va passer maintenant aux news des studios et on va commencer avec Marvel. Marvel qui nous a sorti un truc qui, certes, est sur le papier une très bonne idée, dans les faits, est une véritable connerie. Bruno, je te laisse en parler puisque tu as testé l'objet.
Oui, j'ai testé. Alors, donc, ils ont lancé là le 6 février 2014 une application donc pour les téléphones et pour les tablettes qui s'appelle Marvel Global Comics App. Donc dans l'idée, c'est un peu un truc de fou, un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une plateforme de téléchargement de comics internationale. C'est-à-dire que dedans, on y trouve des comics à télécharger, mais dans plusieurs langues, dans plus de 17 langues différentes, dont le français. Et donc voilà, à terme, on peut imaginer qu'un titre qui sort, par exemple le nouveau single qui sort, soit disponible sur cette plateforme et directement dans 17 langages différents. Pour cette application, du coup, j'ai testé. Il y a déjà pas mal de titres qui sont, enfin, pas mal. Je dirais une vingtaine de titres qui sont dispo en français. C'est pas du tout la traduction Panini, c'est-à-dire que c'est les traductions ont été faites par un autre organisme. Alors traductions qui ont été faites à la va-vite, hein, de grosses erreurs, de grosses fautes, un langage assez étrange, des expressions un petit peu bizarres. On a presque l'impression de lire du Google Trad par moment, donc ce qui est un petit peu étonnant.
Un langage très parlé surtout, hein, d'après ce que tu as pu me lire comme Trad.
Ouais, j'ai pu comparer sur par exemple les premiers épisodes de Civil War, la traduction n'a rien à voir avec celle de Panini, et c'est un petit peu étonnant la façon dont c'est traduit. Mais après voilà, faut imaginer que c'est une grosse machine, c'est-à-dire que le comics doit être disponible en 17 langues, on peut imaginer que voilà, ils ont dû les numériser, effacer les cases, et puis voilà, lancer un programme de logiciel qui traduit un peu dans toutes les langues. Je sais pas comment c'est fichu leur truc, mais...
Non mais sur le papier, c'est une très très bonne idée, surtout que, rappelons-le, la version digitale des comics Marvel chez Panini n'existe pas.
Non. Non, tout à fait. Mais après, voilà, au niveau des
prix... En revanche, voilà, les limites aussi, il y a aussi les limites de ça. Si le comic sort avec 6 mois d'avance, disponible certes en digital, mais déjà en français, pour Panini, ça reste quand même un gros, gros manque à gagner.
Oui, bah ça, je sais pas du tout comment ça va fonctionner. À savoir que les comics sont vendus l'issue à 1,79€ actuellement. Et que parmi les titres qui sont disponibles, on a des events comme House of M, Fear Itself, Civil War, du Marvel Zombie, mais il y a rien de plus récent que Fear Itself. J'ai l'impression que c'est ce qui est le plus récent qui est disponible pour l'instant. À noter que sur la page de l'application, on a quelques exemples d'écran, de capture d'écran en français. Il y a même des fautes d'orthographe sur ces captures d'écran, donc ce qui donne pas vraiment une bonne image de l'appli. Mais bon, voilà, après ils sont en rodage. Peut-être que ça, si ça s'améliore, ça peut être un peu une révolution pour la disponibilité des comics de façon internationale. À suivre, à suivre.
Ouais, bah, il y a quand même, comme je dis, le danger concernant des boîtes comme Panini qui pourraient peut-être perdre quelques parts de marché avec ce genre de choses s'ils se mettent à faire du comic récent.
J'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent, Panini, mais de ça parce que.
Bah, ça reste assez frais hein, quand même, c'est encore tout jeune, tout récent. Jusqu'à présent, la plateforme digitale de Panini proposait principalement des choses Dark Horse ou des choses indées, pas du tout de Marvel. On se demandait bien pourquoi, bah, peut-être que c'était déjà en projet depuis un petit moment cette Marvel
Ouais,
Global
ils ont peut-être pas
Comics
les droits
App.
digitaux, hein. C'est ça, hein.
D'où le fait qu'on n'ait pas de disponibilité de Marvel en digital chez Panini. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, ce qui est bien 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 dommage. On verra, dès qu'on aura un peu plus d'infos, comme d'habitude, on en reparlera. Passons maintenant au jeu des chaises musicales de Marvel de cette semaine. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les scénaristes et les dessinateurs comme on a pu le voir chez DC, ou comme on a pu le voir avec le Marvel Now, hein, où on avait changé toutes les équipes créatives, mais c'est simplement les éditeurs. Alors, certes, pour les lecteurs, on va dire simples, ce qui n'est pas du tout un gros mot, hein. Ils verront peut-être pas beaucoup la différence. Pour nous qui regardons un petit peu plus ce qui se passe derrière, ça va peut-être changer énormément de choses. On va commencer avec Fantastic Four.
Oui.
Fantastic Four a un nouvel éditeur.
Donc c'est Marc Panichia qui va reprendre le titre. Donc avec le début de la nouvelle série de James Robinson. Donc c'est pas non plus un inconnu chez les éditeurs. Il a bossé sur pas mal de titres qui ont marché, comme
Bon,
Iron Man,
la gamme Heroes,
Hulk,
hein, tout simplement.
ouais,
Hein.
Fully Heroes. D'autres qui ont moins marché, hein, comme les All New Invaders ou... Enfin non, pas les All New Invaders, les Invaders avant. Je sais pas s'ils les avaient fait ça. Bon, enfin bon.
Il est aussi éditeur de la ligne Ultimate.
La nouvelle ligne Ultimate, ouais. Donc il a quand même pas mal de boulot. Il faudra voir ce qu'il va faire. Mais on sait que la franchise Fantastic Four était un petit peu mise à mal au niveau vente et au niveau qualité.
Depuis très longtemps. Alors, l'éditeur précédent, c'était Tom Brevoort. Alors, bon.
Ouais, pendant 14 ans.
Ouais. Donc, on va avoir un gros changement là. Reste à voir si ce changement sera vraiment impactable dès le numéro 1 de Fantastic Four. Parce que c'est une décision qui est annoncée que maintenant. Mais est-ce que Brevoort avait un petit peu édité le début du run de Fantastic Four par James Robinson? Ou est-ce que finalement. On va dire de façon cachée, c'était déjà Panichia qui l'éditait et que l'annonce n'est faite que maintenant. Ça
Voilà.
reste à voir. Peut-être nouvelle direction pour les Fantastic Four. Et par direction, j'entends vraiment celui qui dirige. Ça pourra peut-être changer les choses. Peut-être que les Fantastic Four vont redevenir un titre qui compte, un titre qui vend surtout. Parce qu'on va pas se le cacher, hein. Si la version Matt Fraction s'est arrêtée aussi vite, c'est aussi parce qu'elle vendait pas du tout. Tout comme les versions précédentes d'ailleurs.
Ouais, c'est le jeu des chaises musicales, donc on
Eh
verra.
bien justement, on va continuer avec d'autres chaises musicales, puisqu'on en parlait déjà la semaine dernière avec l'arrivée de Mike Marts,
Chez
venant
Marvel.
de chez DC à Marvel. Et on savait très bien que Steven Walker allait partir sur la côte ouest des États-Unis. Pour aller bosser dans la branche studio Marvel, donc là c'est tout ce qui est animé, film, etc., qui allait remplacer l'éditeur de Spider-Man, l'éditeur qui est déjà là depuis un bon moment, hein, Steven Walker, eh bien on sait maintenant qui c'est.
Ouais, et c'est Nick Lowe. Donc c'est pas du tout Mike Martz. Donc Mike Martz, ça sent très fort qu'il va aller sur les X-Men quand même.
Ah oui,
Mais
puisque
donc
Nick Lowe était l'éditeur des X-Men.
c'est ça. Donc voilà. Donc Nick Lowe arrive sur Spider-Man. Donc bon.
Et pas que sur les titres Spider-Man, mais il y a aussi dans son giron Black Widow, aussi Daredevil et encore plein d'autres séries.
Ouais. Bon, bah c'est faudra voir ce que ça donne au niveau des titres. Est-ce qu'on va avoir des différences dans la façon dont ils traitent leurs différents comics? Bon, c'est ça pour ce qui était des scénaristes, ça avait bien marché, ça avait redonné pas mal de fraîcheur d'avoir fait un gros changement à ce niveau-là. Donc au niveau des éditeurs, est-ce qu'on va voir aussi des choses? On verra.
Niklo, ça faisait 10 ans qu'il était sur les X-Men.
Ouais, peut-être qu'ils en ont marre un peu aussi de. Ça leur fait du bien aussi de lire autre chose et ça.
De présider à la destinée finalement d'autres personnages, parce que mine de rien, on dit les scénaristes, mais ce sont quand même les éditeurs qui valident.
Ouais. On en parlera tout à l'heure des éditeurs.
Et qui donne des directions, en tout cas pour les scénaristes. D'ailleurs, pour ça qu'on a vu autant de bazar chez DC l'année dernière. Enfin, petite news un peu fofolle. Todd McFarlane, dans une interview, a récemment dit qu'il rebosserait bien sur du Spider-Man, mais qu'il avait une idée en tête bien précise et ce serait la seule pour laquelle il bosserait sur Spider-Man à nouveau. Chose à quoi Quesada a répondu. Et Quesada a dit, Todd, appelle-moi. Appelle-moi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. En même temps, Quesada serait con. Un mec comme Todd McFarlane qui va redessiner du Spider-Man après des années et des années.
Ouais, mais ce qu'il aimerait bien faire, McFarlane, c'est un crossover, justement, c'est ça, entre Spider-Man et Spawn.
C'est une possibilité, bien sûr. Un projet Spider-Man-Spawn, c'est clair que ça va s'arracher. Marvel serait con de passer à côté, et Todd McFarlane serait con de passer à côté aussi, parce que Spawn, honnêtement, n'a plus l'aura qu'il avait il y a bien longtemps déjà. Donc qui sait ? Peut-être que ce sera quelque chose que l'on verra un jour.
Peut-être.
En tout cas, Quesada n'est pas ouvert à l'idée, et il le dit publiquement, c'est surtout ça qui est intéressant. Il aurait très bien pu ne pas s'exprimer vis-à-vis de cette interview, ne rien dire. Et non, là, il a choisi de s'exprimer publiquement en disant que c'est quelque chose qui l'intéressait et qu'il attendait simplement un mot de McFarlane pour voir ce qu'il pouvait faire. Reste à voir ce qui se fera. En tout cas, c'est assez drôle et assez foufou comme news, je trouve.
Ouais, c'est clair.
On va passer à DC et on va commencer par une news fofolle.
News fofolle.
Oui, encore un retard.
Oui, c'est le retard de Sandman Overture qui a été encore repoussé. Normalement, il aurait dû sortir le numéro 2 en décembre 2013 et ça avait été repoussé à février et là maintenant c'est repoussé à mars 2014. Donc c'est un petit peu un scandale.
Enfin, attention, on approche de la date de péremption, les gens vont s'en foutre.
Le numéro 1 est sorti, c'était quand ? C'était septembre ou même encore avant, je crois.
Septembre ou octobre, un truc comme ça.
Ça va faire presque 6 mois entre le numéro 1 et le numéro 2.
Ça va être octobre, puisque normalement c'était prévu pour tous les 2 mois, donc octobre, ouais. Ensuite décembre. Sachant qu'en plus, entre chaque numéro, on a une version moitié Director's Cut pour ramasser encore plus de fric. Bon, voilà. C'est bien dommage de voir un projet un petit peu qui se gâche comme ça tout seul, quoi. On passe à la vraie actu de DC. Charles Soule va nous parler un petit peu de la mort de Superman. Est-ce que Superman est vraiment mort dans ce monde des New 52 ?
Ouais, en fait, c'est à la suite de l'annonce d'une sorte d'event Superman qui aura lieu qui commencera au mois de mai et qui devrait durer même pendant l'été et qui concerne le retour de Doomsday. Ce sera surtout dans les pages de Superman Wonder Woman où Doomsday avait déjà fait une apparition dans le premier numéro. Et du coup, dans une interview qu'il a donnée à Newsarama, on lui a posé des questions sur si oui ou non Superman avait déjà combattu Doomsday et s'il était vraiment mort. Parce qu'il y a plusieurs choses un peu contradictoires. Il y a eu ce fameux numéro dans le Villain Months où on voyait un Doomsday qui était connu des Kryptoniens et avec une sorte d'histoire que dans l'histoire il avait combattu des Kryptoniens et... Enfin, c'était un petit peu bizarre. Il y avait dans Action Comics Grant Morrison qui avait dit que Superman était mort et qui avait eu une sorte d'événement, un Doomsday Event qui avait été à la cause de sa mort. Il y avait eu un Superman d'une autre dimension qui était un équivalent de Doomsday. Enfin, c'est très très bizarre. Et donc Charles Soule a dit qu'il allait essayer d'expliquer un petit peu tout ça dans ce futur event. Peut-être que ce qu'on avait pu voir, c'était peut-être des choses qui étaient dans le futur, qu'en fait il était peut-être pas encore mort. Enfin, ça a l'air un peu compliqué. Il dit qu'il va peut-être pas répondre à toutes les questions, mais qu'il va essayer. Donc à mon avis, il est en train d'essayer de se dire comment je vais me dépatouiller avec le sac de nœuds. Je suis curieux de voir comment le personnage de Doomsday va être utilisé dans cette histoire, mais. Normalement, on devrait le voir passer aussi dans Superman et dans les autres titres avec les Kryptoniens. Donc, à voir.
Et c'est vrai qu'en même temps, on nous a ressorti cette news hein, dans, enfin cette news qui est pas une news finalement puisque c'était déjà il y a sorti il y a un moment, mais dans cet article on nous reparle aussi de Max Landis qui avait été approché à l'époque, enfin il y a l'année dernière, pour écrire un titre hebdo sur Superman et qui reviendrait sur cette mort.
Ouais.
Encore heureux que ça s'est pas fait. Hein.
Bah ça aurait
parce
été
que
un petit peu...
c'était le carnage assuré là.
Bah Max Landis était connu pour avoir fait justement un court métrage assez drôle où il expliquait comment s'était passé la mort et le retour de Superman. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de choses à dire sur ça, mais avoir une autre série hebdomadaire, déjà qu'on en a deux sur ce sujet, ça aurait été un peu la cata.
Et ça aurait été en co-scénariste avec Greg Pak.
Ouais. Mais bon, on verra.
Ouais. Encore que ça s'est pas fait. Parce que franchement, je vois pas ça se vendre très très bien, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, je pense qu'il vaut peut-être mieux laisser ça à Charles Soule. J'ai rien contre Max Landis, mais Charles Soule a déjà fait ses preuves, plus que fait ses preuves en très peu de temps. Donc.
Oui, et puis Greg Pak reste aussi lié au projet, puisque Doomsday apparaîtrait normalement aussi dans Superman Batman. Et puis c'était Greg Pak qui avait écrit le fameux Villain Months, donc. Ça reste entre les mains des scénaristes de la franchise Superman.
Eh bien, Superman, on va continuer dessus, puisqu'on en parlait en tant que rumeur la semaine dernière, ça a été officialisé, Geoff Johns et John Romita Jr. sur Superman.
Ouais, donc une grosse annonce, deux gros noms sur la franchise Superman, qui en a besoin. Donc,
ils vont reprendre le titre Superman tout court.
Ouais.
Et ce sera cet été.
Voilà, et on a déjà quelques images un petit peu du design de Romita sur Superman, et plutôt classe, je trouve le dessin est plutôt réussi. Après, faudra voir sur un numéro entier ce que ça donne. Mais voir revenir Geoff Johns sur Superman, c'est quand même une bonne chose. Et le scénariste avait fait de très très bonnes choses avant les New 52 sur Superman.
Oui, mais attention. Justement, on parlait de cette annonce l'explication de la mort, en tout cas de Superman par Charles Soule. Eh bien, Geoff Johns révèle qu'il va introduire un nouveau personnage qui sera une sorte de gros reset de Superman et son univers dans les New 52.
Ouais, alors là, faut voir ce que ça va donner, parce que si c'est pour déjà retconner les New 52, ce serait un petit peu...
Et puis, est-ce que l'un l'autre vont pas se tirer dans les pattes, finalement, involontairement ou volontairement, peu importe, est-ce que ça va pas poser des problèmes? C'est assez étonnant. Bon. À voir ce que Johns fera. En tout cas, c'est une équipe que l'on va suivre, forcément. Tandem assez inédit. Sur un personnage aussi emblématique que Superman, ça met quand même vachement l'eau à la bouche. Même si bon, tout de suite là le scénario, t'avais pas fait gaffe à ça. Hein.
Non, mais si j'avais vu passer ça, mais ça me ferait vraiment chier quoi. Parce que déjà quand on a plein, enfin ils sont déjà en train de commencer à se dire on va retconner les Teen Titans, maintenant on va retconner Superman. Déjà faire du retcon sur quelque chose qui a commencé qu'il y a 2 ans. Mais que font les éditeurs?
Bah de la merde. De toute façon, quand on dit que le New 52, c'est quand même franchement casse-gueule et que c'est complètement boiteux ce truc-là.
C'était pourtant pas compliqué, il partait d'une feuille blanche.
Ben non, pas vraiment. C'est bien là le problème d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que Earth 2 est aussi bon.
Ouais.
Parce que eux sont vraiment partis d'une feuille blanche. Voilà la grosse différence quoi.
Quand même, c'est la faute à Geoff Johns. C'est lui qui a foutu la merde avec son Green Lantern. Qui est resté en continuité.
Bien sûr.
Parce que les autres ont vraiment inventé une sorte de nouvelle continuité qui était vraiment propre à l'après New 52.
Bah, Chief Creative Officer. Hein.
Mais Geoff Johns, avec le coup de nous faire garder Green Lantern en continuité, il nous fout la merde. Enfin bon.
On va passer à notre partie indé pour terminer ces News Comics. Sons of Anarchy va sortir la semaine prochaine, le numéro 6, fin de la mini-série. Mais on apprend aussi que ça devient un ongoing au final.
Ouais, ça a très bien marché, un bon titre pour Boom. À noter que le prochain arc sera une préquelle. Voilà, on va s'intéresser à différentes époques dans les Sons of Anarchy et bon, voilà, ça va pas être la suite de la première mini-série, ça va être un tout nouvel arc qui va se passer avant. Je crois entre la saison 2 et la saison 3.
Une licence en tout cas qui permet de rapporter des sous à Boom Comics et ça c'est plutôt pas mal.
Oui, puis le titre est de qualité, il y a un bon artiste dessus. Et voilà, c'est fait en partenariat aussi avec les créateurs de la série, donc j'espère que qu'ils le considèrent comme en continuité pour les prochaines saisons. Non, c'est une bonne chose.
On continue avec du Valiant maintenant. Valiant qui annonçait que pour la sortie du numéro 25 d'Exo Manowar, eh bien, ils vont fêter l'événement dignement, un peu à l'ancienne justement, bah, comme fait Valiant, avec un numéro oversized, 48 pages. Donc là, déjà, ça commence à sentir vraiment l'oversized et pas 30 pages. Avec notamment Robert Venditti, bien évidemment, puisque c'est lui qui écrit la série, mais on aura aussi Diego Bernard, J.G. Jones, Peter Milligan, Brian Hitch, Justin Jordan, Raffer Roberts et des guests surprises qui nous sont annoncés.
Ouais, enfin, c'est une bonne chose et ça permettra de lancer aussi le fameux event sur la Armor Hunters, donc, qui sera lié aussi au Free Comic Book Day. C'est plutôt cool.
La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur qu'il y ait un peu trop d'events chez Valiant en ce moment. J'ai peur que ça fasse peur aux nouveaux, justement. Parce que j'ai l'impression qu'on annonce event sur event chez Valiant, mais bon. À savoir qu'il y aura aussi 5 covers, avec une par Yelena Kevik-Djurjevic, mais aussi une par Brian Hitch, une autre par Arturo Lozzi, une par Sean Chen, et enfin une par Terry Dodson. Ouais. Ils ont quand même été chercher du gros, là.
Hein. Ah ouais, il y a du lourd, mais... Ça, ils sont pas frileux quand il s'agit de faire des variantes parce que tous les mois il y a toujours 5 ou 6 covers variantes pour les différents titres. Voilà.
Alors non, ce numéro 25 ne sont pas les 25 ans de Exo Manowar, on en est qu'à 22. Mais bon, dans 3 ans c'est les 25.
Ouais.
Pour remettre le couvert. Enfin, on parlait de Terry Dodson, eh bien on va y rester puisque Terry Dodson travaille aussi pour la France.
Oui. Et il avait travaillé par exemple sur Songe. Qui était un très joli titre.
Très très beau, oui.
Et donc là, il va reprendre un nouveau titre qui va s'appeler, qui au départ devait s'appeler Red Widow. Voilà, donc avec un scénario de Xavier Dorisson. Et voilà, mais finalement, le titre a changé a priori de nom, puisque.
Sans déconner.
Ça faisait un petit peu proche. Un petit peu penser à Black Widow.
Oui, déjà, Red Widow, en plus, elle est russe, elle est tout en costume de cuir, elle est à la limite entre Black Widow et Black Cat quand tu la regardes visuellement.
Il y a une araignée sur son costume.
Ouais, ça commençait à puer la merde, sérieux, ça risquait le procès avec Marvel, ça. Surtout venant de Terry Dodson, quoi.
Ouais, mais donc ça va s'appeler Red Skin, et donc ça sortira chez Glénat en 2014, ça a été annoncé dans leur... dans leur vidéo un petit peu où ils présentent les titres de 2014. On a pu voir quelques premières planches qui sont plutôt réussies, on va dire.
On a vu que le costume a un peu changé aussi.
Ouais, le costume a changé également. Mais je suis assez curieux de voir ce titre. Le premier, Songe, c'était quand même plutôt sexy, un petit peu de l'érotisme soft.
C'était érotique, ouais, voilà, érotique.
Érotisme soft. Là, on part plus sur du super-héros, enfin, pas du super-héroïque, mais de l'espionnage avec costume super-héros et compagnie. Peut-être pas de pouvoir, mais ça a l'air sympathique.
Ouais, bon, c'est vrai que là, effectivement, il valait mieux quand même changer un peu le design et le nom, parce que c'était vraiment risquer le procès avec Marvel. Hein. Surtout avec un gros nom comme Terry Dodson,
bah,
vraiment.
Oui, c'est clair.
Ça aurait été une équipe purement française, je sais même pas si ça aurait été sur le radar de Marvel, mais là... C'était risqué quand même. Allez, on va passer maintenant à la partie Comics-Com avant que tu aies un petit bash avant de
non,
continuer.
Non, bah si, je t'avais dit mon bash, tout à l'heure, voilà. Je l'ai fait tout à l'heure, c'était sur le Batman 28. Là.
Eh bien, on passe à la partie 29. Mail et on commence avec un mail de Harl qui nous dit « Et si on faisait notre propre reboot ?» Attention, mail compliqué. Bonjour à toute l'équipe. Comme tout fan de comics, je râle régulièrement contre les pratiques ultra-marketing des Big Two entre les renumérotations intempestives et crossovers à répétition. Quelle serait selon vous la meilleure façon d'éditer les univers DC ou Marvel? Pour ma part, et pour parler uniquement de DC, voilà comment je le verrais. Une série régulière unique pour chaque gros personnage. Batman, Superman, Vibe, enfin non, pas Vibe. C'est pas moi, c'est lui qui le dit.
Ouais, salut.
Et pour les sous-séries les concernant, ainsi que pour les autres personnages, Zatanna, Hawkman, Green Arrow, des mini ou maxi-séries au gré des pitchs que l'on proposerait à DC, ouverts aux scénaristes dessinateurs extérieurs à la maison, et une Justice League qui ne se rassemblerait qu'une fois par an pour le crossover estival. Attention, hein, je parle ici que de ce que j'aimerais en tant que lecteur, je me doute bien que la logique commerciale n'y trouverait pas son compte. Et vous, quelle formule aimeriez-vous voir chez la Maison des Idées, et la distinguer concurrence? On va peut-être commencer par DC, puisque c'était le sujet. Qu'est-ce que tu verrais, toi, Bruno?
Déjà, j'aimerais que les éditeurs lisent tous leurs titres. Mais que, enfin, que tous les éditeurs lisent tous les titres. C'est-à-dire que qu'ils soient au courant vraiment de ce que font les autres, pour qu'on ait quand même des choses qui soient assez cohérentes d'un titre à un autre. Après, son idée, c'est sûr que d'un point de vue économique, ce sera pas bon pour DC, mais je trouve l'idée vraiment sympa, à savoir d'avoir une Justice League qui serait là juste pour les crossovers et du coup, sera un peu le gros titre de l'été, qui expliquerait que voilà que les personnages se rassemblent pour cet événement. Je trouve que l'idée est bonne, mais moi, ce qui me gêne, c'est déjà, c'est juste ça, c'est que parfois les éditeurs, on a l'impression qu'ils prennent pas leur courage à deux mains pour dire à leur scénariste, ça, je suis pas d'accord, on a un autre scénariste qui a fait autre chose, j'aimerais bien que tu fasses en sorte que ce soit raccord avec ce que l'autre a fait. On a l'impression qu'ils ont pas de couilles parfois. Et du coup, chacun fait son truc dans son coin, et après, on se retrouve avec des choses qui sont pas du tout cohérentes. Voilà. J'aimerais que l'éditeur ait vraiment du pouvoir et qu'il soit lui qui ait le dernier mot, parfois. Si, enfin pas le dernier mot au niveau créatif, mais au moins pour qu'on ait une sorte de cohérence. Ou alors après, voilà, s'ils veulent être vraiment créatifs, faire ce qu'ils veulent, qu'ils fassent des Elseworlds ou des choses comme ça. Mais on manque
De cohérence.
de cohérence.
Pour continuer, moi, sur son idée de une série régulière unique pour chaque gros personnage, le problème, c'est que 20 pages ne suffisent pas. Clairement. Et là, je pense que, en prenant cette idée-là, il faudrait peut-être se rapprocher plus du kiosque que l'on a à la française, c'est-à-dire des numéros qui, certes, seraient plus chers, peut-être à 7 ou 8 $, une seule fois dans le mois, mais avec 3 ou 4 histoires à l'intérieur, un côté plus anthologique, un peu comme on a nos kiosques en France, avec 4 histoires à l'intérieur, des équipes créatives tournantes, et ça éviterait d'avoir des séries qui vendent moins, et des séries qui vendent plus, et donc des séries annulées par la même occasion. Ils auraient qu'une seule, une seule grosse histoire de Batman, un Batman de 80 pages avec 4 ou 5 histoires à l'intérieur. Ils pourraient faire tourner les histoires comme ça. Enfin, voilà, vraiment plus un côté kiosque français. Je pense que ça pourrait peut-être simplifier les choses pour eux. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça en partant de cette logique-là. Maintenant, moi, ce que je verrais, c'est déjà arrêter cette connerie des New 52 et donc de se cantonner à 52 séries. En faire moins.
Là, ils en parlent plus de ça maintenant, de plus en plus. Enfin, ça, ils l'évoquent de temps en temps, mais on a l'impression que ça les saoule et c'est. J'ai pas fait le compte là sur le mois d'avril, dans les sollicitations, mais j'ai l'impression on n'est plus à 52 séries.
Mais après, faut voir parce qu'avec le mois d'avril, il y a aussi les séries hebdo. Alors, comment comptent-ils les séries hebdo? C'est ça le truc. Est-ce que la série hebdo compte pour 4 ou pour 1? Je sais pas. Et c'est clair que DC, ils ont essayé de faire des mini-séries. Ça s'est cassé complètement la gueule.
Voilà.
Faut dire que, vu la tronche des mini-séries, excuse-moi, moi j'ai pas envie d'aller voir une série qui s'appelle Human Bomb. Ça m'intéresse
Ouais.
pas. S'ils faisaient des mini-séries Zatanna, des mini-séries Hawkman, ou même Green Arrow, hein, je reprends les exemples que nous donne Arl, et pourquoi pas une série de mini-séries, comme le fait Dark Horse. Avec des fois des trous de peut-être 5-6 mois entre deux histoires.
Ouais.
Ça
Bah oui.
pourrait complètement marcher. Mais arrêtez de faire des. De toute façon, ils ont complètement arrêté les mini-séries. Enfin, la dernière, c'est Damian, Son of Batman. Et là, on a mis Batman, on a mis un gros titre. Donc forcément, ça marche. Mais franchement, les autres mini-séries, il n'y en a plus.
Bah
Pourquoi? Parce que
c'est des
ils ont fait
ongoing qui
n'importe
deviennent des
quoi.
mini-séries au final parce qu'elles sont annulées après 10 numéros, quoi, mais.
Ouais, c'est ça. On a
Mais à la
l'exemple
base, ils
de The
veulent que ce soit
Movement
des
et
ongoing,
Green
quoi.
Team, quoi,
Ouais.
par exemple. C'est vrai, quand on regarde les mini-séries que nous ont publiées DC depuis les New 52, on a eu une mini-série Huntress, ouais, ok. Insurgent, on a eu quoi? On a eu Night Force. Des choses qui, franchement, sur le papier, n'intéressent pas. The Ray, certes, c'était peut-être un personnage un peu plus connu, mais ça restait quand même un personnage assez obscur, un C, voire un D-list, quoi.
Ouais, puis depuis Human Bomb, en fait, il n'y a pas eu de mini-série en continuité avec les New 52. C'était que des mini-séries, soit Elseworld, soit type un peu indé. C'est pas des choses qui se passent dans le même univers que New 52.
Alors, on a laissé faire James Robinson avec sa série The Shade, qui a fait 12 numéros, mais bon, a-t-on revu The Shade depuis? Voilà. Bref, il y a pas mal de choses à faire chez DC, mais DC ne sont pas les seuls. Hein. Chez Marvel, il y a aussi pas mal de choses à faire. Et je crois que moi, ce que j'aimerais chez les deux, c'est arrêter ce sacro-saint crossover de l'été et ce sacro-saint crossover de l'hiver.
Ouais, et puis faire trop de crossover. Il y a un truc, oui, ça me fait penser. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé dans les news, mais c'est que dans les derniers titres Justice League Dark et compagnie, ils nous ont encore annoncé un crossover qui va suivre Blight. C'est-à-dire qu'une fois Blight fini, il y aura encore un crossover entre les titres Dark. Ça, on n'en peut plus, quoi, des crossovers. Ils avaient fait la même double page, un peu comme pour Eternal, une page teaser
Oui.
pour les titres Dark. Il y en a marre des crossovers tout le temps.
Bah, le problème, c'est que des crossovers entre trois séries, comme on le voit actuellement, par exemple, sur Uncanny X-Force et Cable and X-Force, un crossover entre deux séries qui, en plus, au final, vont fusionner et devenir
ouais.
qu'une seule série, pourquoi pas qu'est-ce qu'on a comme crossover en ce moment? Là, je prends l'exemple de Revolutionary War, qui sont des personnages, certes, très peu connus. C'est un crossover en 8 parties, avec que des one-shots.
Ouais.
Ce sont que des personnages qui n'ont pas de série régulière. Ça encore, c'est moins dérangeant. Mais des Forever Evil, avec ses 78 tie-in par mois, à peu près, sachant qu'il n'y a que 52 séries, hein, ils sont très forts chez DC. Les séries comme Infinity, chez Marvel. Bon. Ça va, on en a un peu soupé, quoi. Certes, ça leur fait rentrer de l'argent, mais je pense que les gens commencent peu à peu à se lasser, malgré les chiffres de vente, les gens se lassent, les gens les critiquent. Certes, Infinity a été une bonne surprise un peu partout, hein, au niveau du succès autant critique que public, ça a plutôt bien marché. Mais est-ce que le prochain crossover va marcher aussi bien? Celui sur la mort de Watu, je suis pas sûr qu'il marche autant. Même s'il a un pitch qui est sur
ouais,
papier intéressant, ouais. Mais bon, on verra. Est-ce que hormis les gros fans, ça va attirer les gens? Pas sûr. T'envoies les Avengers dans l'espace en disant qu'il y a une espèce de guerre galactique, oui, là les gens vont les voir. Là tu dis qu'il y a un Watcher qui s'est fait buter, il y a déjà des gens qui savent pas qui c'est Watcher.
Ouais, c'est bon. Ouais, c'est moins grand public, on va dire.
C'est moins grand public, effectivement. Si mettaient peut-être 2 ans entre chaque event, peut-être que les gens se jetteraient un peu plus dessus. Je sais pas, une idée ouais. comme ça.
Après, moi par exemple, moi qui suis un grand lecteur d'un univers Ultimate, moi j'apprécie que justement ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a un univers avec qui est plutôt cohérent. Alors bien sûr, il y a 2-3 petites erreurs, mais par exemple le fait que mort c'est mort, le fait qu'on a des générations qui se suivent de héros, c'est-à-dire que des passages de flambeau, bah du coup c'est, je trouve ça cool quoi. On n'a pas du reboot en continu. Là même là où on s'attendait à ce que l'univers Ultimate meure, au final il décide de continuer. Moi je suis content parce qu'il se base encore sur ses 10 ans d'histoire et ils évoluent avec de nouveaux personnages et tout en gardant quand même cette continuité avant. Et moi ça me plaît ça. Et voilà, après c'est sur un plus petit nombre de titres. Là le fait qu'ils aient tant de titres, enfin Marvel, là j'ai même pas compté combien ils ont de séries ongoing avec le All New Marvel Now, mais c'est. On est à plus de 52 quand même là, je pense. Enfin je sais pas, mais.
Chez Marvel, oui, on est à plus de 52. Je vais te retrouver les chiffres tout de suite, hein, puisque je vais reprendre les chiffres de vente de ce mois de janvier. Chez Marvel, nous avons 79 comics qui sont sortis, tout compris, hein, même en comptant le comic Disney qui est certes
ouais.
moins dans
bah,
l'univers.
T'en enlèves une quinzaine, quoi, qui sont pas dans la continuité.
79 singles, et chez DC, on a 83 singles, en comprenant bien sûr Vertigo. Ouais. Voilà, c'est quand même énorme. C'est énorme. Ben, on se moque de Marvel et DC, mais chez Image, il y a quand même 53 singles qui sont sortis au mois de janvier.
Oui, mais ils sont pas dans le même univers, donc c'est.
Ils sont pas dans le même univers, c'est certain. Mais peut-être que des plus petites compagnies comme Dark Horse, comme Boom, qui ne sortent que 26 comics. Alors, il y a peut-être un juste milieu, peut-être qu'une cinquantaine par compagnie, ce serait pas mal. Et ça obligerait justement à voir, pour les scénaristes comme pour les éditeurs, publier que le meilleur du meilleur.
Ouais, mais quand t'as 60 titres à gérer dans une même continuité, enfin, je dirais à part si les éditeurs lisent vraiment les 60 titres en question et qu'ils ont les numéros, enfin tous les scénarios 2 mois à l'avance, c'est normal qu'on a plein d'erreurs et qu'on n'y arrive pas, quoi.
Non, ce qui serait bien chez Marvel, c'est arrêter cette relaunch sheet aiguë. Je comprends l'argument commercial aussi de la relaunch sheet, mais merde, quoi. Sérieusement, c'est pas parce qu'on change une équipe créative que on doit relancer à zéro. Ça marchait très bien dans les années 80, les années 90 aussi. Pourquoi faire ça? C'est qu'un gonflement artificiel des chiffres, on le voit bien, de toute façon, on l'a déjà vu, même sur ce mois de janvier, on vous a donné les chiffres tout à l'heure. Entre les numéros 1 et les numéros 2, il y a une telle différence. Ça ne marche pas. Ça fait marcher que la spéculation et les gens qui vont acheter 3 ou 4 fois le premier numéro en espérant qu'il va coter peut-être dans 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, les tirages sont tellement gros que pour que ça cote, il va vraiment falloir attendre, quoi. Donc, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas moi la formule magique.
Bah si on, ouais, je pense que quelqu'un aurait trouvé cette formule magique avant nous, hein, s'il y en avait une vraiment.
Tout ce que je sais, c'est qu'il faut changer les choses. Ça c'est une certitude. Il faut changer les choses parce que je pense qu'on ne pourra pas continuer comme ça très longtemps, même si on voit que les chiffres montent depuis 2-3 ans, qu'il y a un regain du comics. Certes, c'est aussi dû aux franchises cinéma, mais je ne suis pas sûr que ça marche très longtemps. L'impression que j'en ai, c'est que les lecteurs commencent à se lasser un petit peu et commencent à voir ce qui se cache derrière toutes ces pratiques commerciales. Le fait que l'on oublie les histoires qui ont été racontées il y a 2 ans, on nous les resserre. Qu'on nous resserre des histoires qui sont sorties il y a 15 ans, effectivement, c'est peut-être pas le même public, mais il y a 2 ans, faut pas déconner, quoi.
Mais ça fait le jeu des éditeurs indépendants, enfin indépendants entre guillemets, mais comme Image et compagnie, qui du coup montent et ça ils ont un gros succès en ce moment.
Alors, et puis dernier petit point, que les Big Two traitent un peu mieux leurs employés, surtout DC d'ailleurs, surtout DC. Quand on a vu tous les scandales de l'année dernière. Peut-être que ça aussi, ça aiderait à ce que la compagnie aille mieux et que les scénaristes et dessinateurs aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bref, bah, ça reste de l'utopie, hein. C'est totalement utopique ce que l'on dit, mais bon, on sait qu'ils nous entendent pas, malheureusement. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire. Enfin voilà, j'espère que c'est un début de réponse. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à partager un petit peu vos avis sur comment ça pourrait marcher mieux que ça. Il y a forcément un moyen que ça marche mieux que ça. On va passer au deuxième mail que l'on a reçu, mail de Gré Pigeon.
Ouais. Bonjour à tous, encore une fois chapeau bas pour votre site et vos podcasts. J'ai une question concernant le prix des comics. Pour quelles raisons les deux gros éditeurs ont des prix différents en fonction des comics? Il y a eu une hausse des prix des titres d'essai pendant le Villain Month à cause des couvertures 3D, belle arnaque, mais je constate que de plus en plus de comics qui étaient à 3$ sont maintenant à 4$. Cela fait tout de même 25% d'augmentation sans vraie raison apparente. Si en plus on veut lire les X-Men, ça fait l'épisode à 12$ avec entre autres All New X-Men, Uncanny et Les Gardiens. Ok, je troll. Cependant, certains titres restent à 3$ et c'est tant mieux. Est-ce uniquement parce qu'ils savent que les titres qu'ils mettent à 4$ se vendront de toute manière, comme Batman, Justice League ou X-Men, ou alors nous prendrait-on pour des cons? Y a-t-il une autre raison? Quel est le coût réel d'un comics? À partir de quelle vente devient-il rentable? Les grosses sorties compensent-elles les plus petites? Amicalement. PS, pensez-vous organiser un jour un podcast dans lequel vos fidèles auditeurs pourraient participer? Voilà. Donc alors, pour les prix des comics... normalement, logiquement, le comics à 4$ est censé avoir plus de pages qu'un comics à 3$. Chose qui a changé récemment chez DC, où en fait ça s'est transformé en... Les comics à 4$ ont des couvertures de meilleure qualité que les comics à 3$.
À la base, les comics à 4$ chez DC, en tout cas au début du New 52, avaient des backups, comme dans Detective Comics notamment.
À savoir à peu près 6 pages en général de comics en plus.
Ouais. On avait entre 6 et 8 pages, ouais, donc...
Donc là, chez DC, ces backups ont disparu au profit d'une meilleure qualité de couverture plus rigide, chose complètement débile. Chez Marvel, c'est un petit peu différent. Depuis maintenant 2 ans, le comics à 4$, cette différence, ça s'explique par l'ajout d'un code digital qui est fourni dans ces comics à 4$, donc à savoir qu'on a la version digitale qu'on peut télécharger gratuitement en insérant un code qui est fourni dans le comics. Et les comics qui sont à 3$ chez Marvel n'ont pas de code digitaux normalement.
Le problème reste que c'est obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de version sans code digital.
Exactement. Donc, ce qu'on sait, oui, effectivement, c'est que les titres à 4$, en général, c'est les gros titres. C'est tous les titres les plus vendeurs qui sont à 4$. Mm-hmm. Les exceptions un petit peu notables, c'est Green Lantern, par exemple, chez DC, qui restait à 3$, qui a pas franchi le cap des 4$, heureusement, et qui est quand même une grosse franchise.
Pour le moment.
Mais sinon, même là, avec le All New Marvel Now, il y a pas mal de titres qu'on aurait pu penser à 3$ qui sont passés à 4.
On pense à Black Widow et compagnie. Ils savent très bien qu'à chaque fois qu'ils annoncent une augmentation des prix, les gens râlent. Donc, bilan, ils ne l'annoncent pas et ils changent le prix comme ça, sans annoncer. C'est tout. C'est tout. Et à la question, est-ce qu'on nous prend pour des cons? Oui, clairement. clairement, si encore il y avait une différence de pagination, une différence de qualité réelle, parce que franchement, la qualité de papier, faut arrêter les conneries, quoi. Ça ne justifie pas un dollar.
Chez Marvel, le papier est dégueulasse. Chez DC, il est quand même de meilleure qualité, mais chez Marvel, ça craint. Et en plus, ça fait un petit peu pitié quand on compare avec d'autres éditeurs comme Image, qui nous proposent des comics à 3 dollars, qui parfois font 30 pages de comics, hein, pas en comptant les pubs, hein, 30 pages vraiment de BD. Voilà, chez les indés, ils se foutent un peu moins de notre gueule. Enfin, ça dépend des éditeurs, parce que chez Dynamite, les titres sont quand même très chers, je trouve, à 4 dollars pour 20 pages de BD, et beaucoup de pubs. Mais là, en plus, la grosse maladie des éditeurs depuis maintenant 2-3 ans, c'est de nous faire des numéros à 6 dollars, les numéros à 8 dollars, les numéros anniversaires maxi size, là. Qui,
ouais, à 30 pages.
Voilà, ça, il y en a de plus en plus, et autant parfois ça peut être justifié quand on voit par exemple Detective Comics 27.
Oui, alors là c'était un très bon rapport qualité-prix en plus. Voilà. En plus la qualité est au rendez-vous. Donc.
Il y a ces éditions, les mini TP un peu Marvel qui sont à 8 dollars, des rééditions par exemple qu'ils ont fait pour Rocket Raccoon, pour Star-Lord et compagnie, qui sont des, ou même le Silver Surfer, qui sont des bonnes choses.
Mais d'ailleurs, ceux-ci sont comptés dans les TP en termes de chiffre de vente et non pas dans les singles.
Ouais, ouais. Et donc voilà, ça c'est une bonne chose, mais. Voilà quoi, c'est les titres à 6 dollars quand c'est un numéro anniversaire. Là, on va en avoir, je crois, au mois d'avril, on va avoir des numéros anniversaires pour Guardian, X-Men et pour Ultimate Spider-Man ou je sais pas quoi, donc on aura des numéros plus chers. Ça monte vite hein, le budget du coup.
Bien sûr. Alors, à la question, quel est le coût réel d'un comic ? Alors là, par contre, je ne sais pas. Moi, je me suis pas renseigné du tout, honnêtement. Je ne sais pas du tout. Et à partir de combien de ventes devient-il rentable ? En général, on voit que chez les Big Two, dès que ça descend en dessous des 20-25 000 ventes, la série ne survit pas longtemps.
Ouais, à part All-Star Western.
Ouais.
Parce que Dan Didio est fan.
Voilà. Et les grosses sorties compensent-elles les plus petites ? Oui, clairement oui. C'est pour ça que certains titres continuent alors qu'ils marchent qu'assez moyennement finalement. Mais bon, c'est vrai que, en général, la barre des 20 000 est fatidique. Hein. En dessous 20 000 pour un des Big Two, ça a tendance à dégager rapidement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on relance encore l'univers Ultimate. Puisque, hormis Spider-Man, les autres étaient carrément en dessous les 20 000. On tournait aux alentours de 17-18
ouais,
000
ouais, c'est ça.
Pour les Ultimates et les X-Men.
Enfin bon, il est loin le temps du DC Comics qui dit on reste à 3 dollars sur tous nos comics et tout.
Ah c'était la grosse annonce janvier 2011 ça.
Ça c'était la folie quoi.
On ne franchira pas la ligne. Putain, ils ont pas mis longtemps à la franchir. Si on devait leur mettre un coup de pied au cul à chaque fois qu'ils se trahissaient, remarque, on pourrait pas s'asseoir beaucoup. Alors, à la question, pensez-vous organiser un jour un podcast dans lequel vos fidèles auditeurs pourraient participer ? Oui, on est en train d'essayer de travailler dessus, de trouver des solutions. Parce que pour le moment, nos lives, en fait, forcément, ça se ferait en live.
Oui.
C'est plus agréable. Et puis, ça permettrait à plusieurs personnes de participer et de réagir. Ça pourrait peut-être se faire, certes, en différé, mais c'est un peu plus compliqué en termes de technique. Déjà pour nous, pour enregistrer et pour pas imposer une technique d'enregistrement à nos auditeurs, tout simplement. Donc ça se ferait à l'occasion d'un live. Maintenant, on est en train de voir comment on pourrait faire, puisque nos lives, nous les faisons maintenant sur Hangout, ce qui est plus sympathique, en plus il y a la vidéo, etc. À voir comment on peut gérer, puisqu'on a aussi des limitations sur Hangout en termes de nombre de participants.
Ouais. Donc en tout cas, vous pouvez déjà commencer à vous créer des comptes Google+, hein, au cas où, parce que...
C'est une prérogative Hangout. On a un compte Google tout court, mais aujourd'hui qui n'a pas de compte Google.
Ouais.
Ça devient assez rare. Une adresse Gmail vous offre tout, hein, c'est-à-dire tous les services Google et Google+, ce réseau social tellement hype.
Et tu voulais pas relancer le répondeur, sinon
vent. Oh non, ça fait plus le répondeur, arrêtez. Pitié. Laissez-le où il est, le pauvre. Il prend des vacances. J'espère qu'on a répondu à ta question, Grépigeon. Entre Arles et Grépigeon, deux questions bien, bien compliquées, hein, quand même.
Bien charnues.
Mais ça nous fait plaisir aussi de recevoir des questions comme ça. Vraiment. Et c'est pas que les autres questions ne nous plaisent pas non plus, hein, mais voilà, c'est vrai que là, ce sont des questions de fond, on va dire. On va terminer très vite avec des petites brèves venant de Twitter. On a Abrutim qui nous dit « Oubliez que Pulps Bordeaux est fermé le lundi ». Et Lou Julio qui lui a répondu dans le dernier podcast de Comic City « Steve annonce pourtant que ce serait ouvert le lundi ». Eh bien oui, Pulps est ouvert le lundi, Bruno.
Ah oui, en fait on est ouvert le lundi, mais les horaires sont un petit peu différents de la semaine. C'est-à-dire qu'on ouvre un peu plus tard, on ouvre à 13h30. Donc on est ouvert le lundi après-midi en fait.
Oui, j'ai oublié de préciser après-midi dans mon message qui devrait être refait, peut-être pas pour cette émission, mais pour le prochain, parce que j'aurai pas le temps.
Voilà, donc vous êtes les bienvenus le lundi chez Pulse Bordeaux, à partir de 13h30.
Ensuite, Matchenk qui nous dit « Je vous invite à lire mon article sur la politique dans les comics et les BD sur blog-master2-politique.ecs-paris.com/politique/1768 » Eh bien, allez-y. Voilà. Le message est passé.
On mettra peut-être le lien dans Facebook.
Oui, ou regardez sur Twitter.
Voilà, ou sur Twitter.
Et enfin, un petit tweet de Samizo Kuhei. J'espère que je le prononce bien, même s'il nous dit qu'on peut le prononcer à la française. J'essaie de prononcer
Samizo Kuhei.
Un minimum un peu à la japonaise, même si je ne parle absolument pas japonais, qui nous dit « Vous étonnez du Fantastic Four de Corman, mais vous oubliez le Captain America Shippos fait quelques années auparavant. » On s'étonne du Fantastic Four de Corman. Non, enfin, je pense pas qu'on s'en soit tant étonné que ça la semaine dernière. Ce qui était plus étonnant d'ailleurs, c'était l'annonce de ce documentaire qui revenait là-dessus.
Ouais.
D'ailleurs, après, il dit qu'il nous a séduit un peu tous, hein, je pense.
Mais c'est vrai que moi je l'ai pas vu, moi, le Fantastic Four de Corman, mais j'ai pu découvrir le Captain America il y a pas très longtemps grâce à un de nos auditeurs qui est client aussi de Pulps, que je remercie, qui m'avait passé le film. Et je m'étais bien marré dans le train quand même en regardant ce film de Captain America qui était assez cultissime, hein. Voilà.
Ah oui, alors là, ça pour être cultissime, c'est cultissime. Hein.
Mais qui était quand même très fidèle aux comics, hein, mais mais le design était vraiment, vraiment pourri.
Y a-t-il un design
ouais.
C'est la grande question. Où était le designer du film? Aux toilettes, sûrement. Bref, voilà, c'est tout pour cette émission qui a largement débordé, encore
et
une
oui.
fois.
Et oui, il y a toujours des choses à dire.
On vous souhaite à tous une très bonne semaine. Retrouvez-nous dans la semaine, hein, avec le spécial que vous annonce depuis déjà quelques semaines et que
sur
tous les utilisateurs de Twitter auront deviné, bien évidemment. Et puis, bien sûr, en fin de semaine, avec le Comics Weekly, votre émission de review de Comics VO. D'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Et puis, vous nous envoyez des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, mails qui seront lus et auxquels nous répondrons, si question il y a, dans le prochain Weekly News. Enfin, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions sur le site ou sur iTunes sur lequel vous pouvez nous laisser des petits commentaires ainsi que des bonnes notes, hein, des 5 étoiles. Ça aide à la popularité du podcast. À la semaine prochaine et comme d'habitude, portez-vous bien.
Ouais, à bientôt. Ciao, ciao. Just for the tea.